Ambassadeur, c'est l'heure.
Je croyais vous avoir dit à tous que je voulais le silence radio.
Live de Québec.
Je n'ai pas reçu ce message.
Dans ton app, dans ta radio, c'est Marceau.
Marceau le midi.
Salut! Bon mardi, bienvenue sur les ondes de Boulevard 101. Merci d'être là, les amis. Mon nom, c'est Yann Marceau. J'accompagne jusqu'à 14h en compagnie de Pascal CV, qui a les yeux pétillants aujourd'hui.
Non, mais je t'en forme.
Ah oui?
Toi, t'es un peu dans le schnoute.
Comment?
T'es un peu dans le schnoute.
Pourquoi?
Parce que quand je m'entraîne de façon régulière,
oui,
j'ai deux fois plus d'énergie que j'en ai habituellement.
Et c'est moi qui devrais subir?
Oui, parce que ça a officiellement commencé ce matin, cet entraînement-là. Entraînement sévère, entraînement chaleureux.
T'étais au Tonic Gym avec ton entraîneur privé maintenant?
Oui, j'ai rencontré Javier! Oui, c'est un Colombien de 6'3", dans le fond, prof d'éduc en Colombie, mais entraîneur personnel depuis des années au Québec. Il est en forme.
V'là 2 jours, elle apprenait l'italien et là, tout d'un coup, on transfère vers l'espagnol.
Mais je connais l'espagnol.
Ah, tu connais l'espagnol?
Oui, il me disait des petits mots, là, puis je disais, oui, je te suis.
Oui? Oui. T'as-tu fait tous les exercices?
Mais là, c'était plus gênant un peu ce matin, parce que là, il prend tout ce côté, là.
Tes dimensions?
Puis, pas les dimensions, mais mettons...
ton poids?
Ton poids, ton gras.
Ton taux de gras.
Versus ton muscle, sur toutes les parties de ton corps.
Fait que t'as tout vécu ça matin.
Oui, ça a été beaucoup d'émotions.
Fait que t'as plus de cachette à lui faire.
Écoute, si j'avais à lui mentir, mon petit programme dirait le contraire. Hey, mais c'est tellement technologique.
Ben
là,
oui.
Ça me fascine, honnêtement. Il est capable de voir dans la cuisse gauche, maintenant, par rapport à la droite, c'est quoi mon pourcentage de gras, c'est quoi mon pourcentage de muscles, où est-ce que ça pèse plus, qu'est-ce qu'on peut aller raffermir, qu'est-ce que ça va donner quasiment visuellement.
Là, t'as combien de temps avant de monter le Kilimanjaro? Là?
On est en février, mais mettons, on a fini le mois. Là,
puis là ils te font un programme pour cette ascension-là.
J'ai 6 mois.
T'as 6 mois pour l'ascension.
Ouais.
Okay.
Majoritairement en endurance. Fait que, tu sais, je vais m'entraîner musculairement pour que mes muscles soient capables d'en prendre de façon peut-être un petit peu plus intense que d'habitude.
Ouais.
Parce que juste la descente, je te le disais, c'est 18 heures one shot. Fait que sur les articulations, si t'as pas des bons muscles, tu vas te scraper le corps. Fait que c'est... Mais à travers tout ça, ça va être des longues marches. Ça va être, si tu veux venir marcher avec moi, là, je sais que t'aimes bien ça courir, là, mais si vous voulez aller faire du hiking ou autre, là, c'est en plus de mon entraînement.
Ouais, je pense que j'ai d'autres choses à faire.
Puis j'ai pensé à toi, ce qu'il m'a dit. Ouais, il marchait avec moi pendant 7 heures. Ça me tente pas, ben, je suis sûr.
J'ai un rave.
Ah, ouais, à chaque fois que je vais marcher avec
lui. Ballon blanc, je pense.
T'as à boire, c'est rendu populaire, ça, c'est revenu.
Ouais.
Il m'a dit, t'as-tu un autre objectif que le Kili? Tant qu'à ça, il dit, oh, on va regarder ça. J'ai dit, tu vas rire, mais peut-être lancer plus fort au dodgeball.
Ah oui, tu vas lui demander une technique pour ça,
la
parfait.
Voilà.
Gros show aujourd'hui dans Marceau le midi. Pat Raymond va être là du podcast Financièrement parlant. On va parler des millennials et de la génération Z. Est-ce qu'ils peuvent bâtir leur richesse sans posséder une maison?
Tellement
on va se poser la question. Denis Gravel va être là aux alentours de midi pour le pit stop. Et on débute avec Charles-Éric Lamarche, notre expert en aviation, puisque hier, à l'aéroport Pearson de Toronto, il y a eu un crash d'avion qui... Ça arrive très peu souvent, là, ce type de crash-là.
Mais ta première réaction?
Ben, en fait, ma première réaction, c'est la première fois de ma vie que je vois un avion qui arrive sur le dos comme ça, sans exploser. Bon, on va en jaser avec Charles-Éric à l'instant. Salut, Charles-Éric!
Hey, salut, bon après-midi.
Bon après-midi. On voit l'approche dans la vidéo, puis by the way, on vous l'a mis sur la page Facebook de Boulevard. Là. On voit l'approche de l'avion sur la vidéo, on voit l'avion atterrir, on voit qu'elle fait un genre de bond lorsqu'elle atterrit. Par la suite, elle commence à glisser sur le côté, et là, il y a une aile d'avion qui décroche et l'avion se met directement sur le dos. De ton côté, toi, là, est-ce que c'est la première fois de ta vie que tu vois ça? Je veux dire, moi, je suis l'aviation depuis peut-être mes 10 ans. J'ai jamais vu ça de ma vie.
Bien, surtout un accident de cette ampleur-là avec pas de mort de ce genre-là. C'est sérieusement, là, quand j'ai vu ça hier et j'ai vu un peu le résultat de tout ça, je l'ai classé dans mon tableau Excel là, dans les petits miracles de l'aviation. C'est tout simplement phénoménal. On a vu ça déjà, si je me souviens bien, là, un peu un comportement semblable d'un avion en Arkansas, Little Rock, il y a eu plusieurs années de ça, et malheureusement, ça a été que des décès, là. Mais de voir l'ampleur de l'accident, de voir la solidité de la carlingue qui est restée complètement intacte, et le travail de sortir, d'évacuer tous ces gens-là, c'est magnifique. On avait des conditions qui n'étaient pas faciles à Toronto hier. C'était très venteux, mais c'est des conditions comme on a souvent au Canada.
Ben, c'est ça qui m'a
Alors là.
surprise, parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, mais à cause de la tempête et tout. » Puis moi, j'avais l'impression que quand j'ai vu ça hier, ça m'a saisi. J'avais l'impression qu'on était quand même très en sécurité, puis que si les conditions n'étaient pas bonnes, ben on prenait pas le vol, puis on prenait pas les airs tout simplement, là.
Non, absolument. Donc, c'est pour ça que l'enquête est très importante et ce qui est très rassurant aussi dans cette enquête-là qu'on va avoir, c'est qu'on a les deux pilotes qui sont en bonne santé, qui vont pouvoir répondre à des questions rapidement. Donc, avoir leur point de vue rapidement sur ce qu'ils ont vécu. Est-ce qu'il y a eu, bon, ben, quand on a des conditions comme ça avec des rafales de vent, est-ce qu'il y a eu un cisaillement de vent? Un cisaillement de vent, c'est une variation soudaine de la direction et ou de la force du vent. Et on le sait, les avions se posent toujours avec le nez dans le vent. Donc, est-ce que soudainement, on s'est retrouvé avec une baisse rapide du vent qui fait que l'aéronef perd de sa vitesse, qui la garde en sustentation, donc qui l'aide à créer sa portance? Et là, on a eu soudainement une perte de portance. Ça se peut que ce soit ça.
Est-ce que ça
Et
pourrait être,
on
on est dans les hypothèses, là, Charles-Éric, est-ce que ça pourrait être de la turbulence de siège? Parce qu'il y a un aéronef qui a atterri juste un peu avant. Normalement, les contrôleurs aériens contrôlent cette fameuse turbulence de siège-là.
C'est quoi ça?
C'est le vent qui est propulsé en dessous de l'avion. Puis dès
ouais,
qu'il
c'est
sort
des
derrière l'avion, ça fait un tourbillon.
OK.
C'est ça, c'est les tourbillons de vent créés par la portance d'un avion qui est devant. Il y a des séparations que les contrôleurs là, gardent, avertissent aussi là, souvent les appareils lorsqu'ils sont sur l'atterrissage de la possibilité de turbulence de sillage. Rien n'est écarté à ce moment-ci, là. Absolument rien n'est écarté. Alors, mais c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir rapidement le point de vue de l'équipage.
Ouais.
On va avoir, comme la carlingue est en bon état, c'est facile de retrouver les boîtes noires, d'avoir accès, de faire parler ces boîtes noires-là. Donc, on aura de l'information très, très, très rapidement.
Je me sens mal de poser une question. Parce qu'on parle souvent de
Vas-y.
camionnage. Yannick, il m'a amené une information de ses informateurs secrets sur la route, comme quoi, des fois, il y a des délivrances de permis très, très faciles parce qu'il y a eu pénurie de main-d'œuvre et autres, immigration, peu importe. C'est un mélange que vous devez suivre, Yannick. Là, il parle souvent avec Truck Stop Québec. Il pourra vous réexpliquer ça. Mais en aviation, est-ce qu'on a cette problématique-là en ce moment d'avoir à mettre peut-être des pilotes un peu moins expérimentés dans les airs parce qu'on manque de main-d'œuvre?
Bien, oui, on a subi une pénurie de main-d'œuvre. Par contre, l'entraînement est le même. L'entraînement est le même. Et oui, on se retrouve avec des pilotes avec peut-être un peu moins d'heures de vol. Mais quand même, pour piloter ce genre d'avion-là, ça prend quand même là, plusieurs, je dirais même plusieurs centaines, plusieurs milliers d'heures de vol. Plusieurs centaines, c'est pas une grande, grande, grande expérience, mais à plusieurs milliers d'heures de vol, là, on commence à en avoir vu pas mal. Donc, oui, il y a eu un petit changement, mais en même temps, on a des avions qui sont de plus en plus technologiques, qui sont bien équipés pour aider nos pilotes à contrer ce genre de météo-là qu'on pourrait rencontrer. Mais encore là, est-ce que c'est la météo? Est-ce qu'on a eu un problème avec l'avion?
On
Qu'est-ce qui
s'appuie
s'est
trop
passé?
là-dessus.
Ça, on a hâte de le voir. Moi, ce qui m'a impressionné, par contre, et ce à quoi j'ai pensé, c'est les agents de bord. Vous en ignorez, tu sais, et là, on n'est pas prêt à un atterrissage d'urgence. Hein. Ce n'est pas une situation où est-ce que notre état d'esprit est prêt. On s'en va sur un atterrissage régulier et tout d'un coup, on se retrouve la tête en bas. Avec de la boucane, avec un incendie qui est prêt, et là, il faut évacuer. Alors, nos agents de bord, et on en parlait un peu avant d'entrer à Nantes, Yannick, on appelait ça dans le temps les hôtesses de l'air. Hein? Donc, la gang qui vient nous porter un drink et un petit biscuit, un petit repas, c'est pas juste ça.
Ouais.
C'est accessoire, ce
Il
côté-là.
y a des gens qui avaient des
C'est.
préjugés à l'époque qui disaient les hôtesses de l'air sont embauchées pour ce qu'ils ont de l'air plutôt que ce qu'ils sont réellement. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout, là. C'est rendu
Vous
des
devriez
professionnels.
voir, oui, vous devriez voir l'entraînement par lequel elles passent et ils passent pour réussir leur formation d'agent de bord. Leur première préoccupation, leur premier rôle, c'est d'être responsable de votre sécurité à bord. Et c'est là que ça embarque. Ils sont entraînés de façon extrêmement rigoureuse, avec des standards très élevée aussi, comme nos pilotes aussi. Et ils ont de la simulation aussi de situations d'urgence. Mais est-ce qu'on s'entraîne pour évacuer un avion avec la tête à l'envers?
Jamais.
Non. Alors là, la mécanique d'ouvrir une sortie d'urgence, placer sa main en haut, la main en bas, tirer de telle façon, là, il faut le faire complètement à l'inverse, en gérant la panique dans l'avion, en gérant comment on sent nous, est-ce qu'on s'est blessé, on s'est-tu cogné la tête. Donc, c'est tout ça à gérer et tout ça s'est fait très rapidement, très bien. Puis, on a évité que des gens soient blessés ou même par l'incendie. Donc, on a évacué très, très, très rapidement. Et les équipes d'urgence au sol aussi ont été super rapides sur l'intervention, vraiment, là. Alors, moi, le travail des agents de bord hier, je pense que c'est eux autres qui méritent tout notre respect ce matin, là,
Ouais.
avec comment ils ont réagi, comment ils sont intervenus.
Tu fais bien de le souligner, Charles-Éric. Je voulais savoir, parce que quand on regarde la vidéo, puis pour ceux qui ne l'ont pas vue encore, elle est sur la page Facebook de Boulevard, on voit qu'il y a un incendie qui est créé par le fait que l'avion s'écrase. Dans ce type d'avion-là, rappelle-moi, là, l'essence est vraiment dans les ailes.
Oui, exactement. Les réservoirs sont dans les ailes.
Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas explosé?
Ben, ça l'a pris feu quand même. Et là, on est à l'atterrissage normalement aussi. L'atterrissage, évidemment, on est à un moment du vol où on a moins de carburant à bord. Donc, la quantité n'était pas si imposante que ça. Tout dépendant de leur routing, des fois, on en transporte un peu plus parce que peut-être que d'où est-ce qu'on part, le carburant est un peu moins cher. Par contre, je peux vous dire, au Minnesota, c'est un des endroits où le carburant d'aviation est très, très cher. Donc, probablement qu'on est parti avec la quantité minimum pour en reprendre plus à partir de Toronto. Donc, on est arrivé avec une quantité qui était probablement pas aussi, pas très grande quantité d'essence, là.
OK, mais je trouve ça intéressant parce que, advenant le cas où un pilote sait que ça va être un atterrissage d'urgence puis il y a un risque de crash, il peut libérer l'essence dans les airs. Bon, je m'excuse pour les environnementalistes, là, mais il peut libérer son essence qui fait en sorte qu'il va atterrir avec pratiquement pas d'essence dans les ailes de l'avion.
Mais pour pas qu'il y ait de feu qui prenne de l'ampleur.
Mais le but de faire ça, de libérer de l'essence, à la base, c'est de réduire le poids de l'appareil. Donc, souvent, lorsqu'on fait ça, c'est lorsqu'on a un problème, par exemple, au décollage, où est-ce que là, on a plein de carburant et souvent, on va décoller et on a un poids maximum au décollage à respecter. On a un poids minimum ou maximum aussi à l'atterrissage à respecter. Donc, souvent, le poids superflu qu'on peut se débarrasser pour atteindre notre poids maximum à l'atterrissage, c'est le carburant. Donc, c'est pour ça que souvent, lors des situations d'urgence, pour rendre l'avion à son poids minimum, pour éviter les dommages, son poids maximal, pardon, à l'atterrissage, là, on va vider du carburant ou parfois, même si on est capable de maintenir l'avion en l'air, ben, on va tout simplement faire des circuits d'attente pour brûler du carburant. On l'a vu à un moment donné, là, c'est JetBlue, je pense, qui était décollé de Long Beach, en Californie. La roue de nez est restée à 90 degrés.
Oui.
Par rapport à l'appareil. Ils venaient de décoller, ils avaient quand même beaucoup de carburant. Ben, ils ont tourné pendant pratiquement 2 heures pour brûler du carburant et éventuellement venaient se poser en sécurité parce que l'avion, c'était pas problématique de la garder dans les airs. Donc, au lieu de vidanger du carburant, on a préféré le brûler tranquillement, peut-être essayer d'autres options, voire aussi prendre le temps de troubleshooter, comme on dit en anglais. Donc, aller voir c'est quoi le problème, est-ce qu'on est capable de le gérer, est-ce qu'on est capable de réparer en vol. Et à ce moment-là, se poser. À ce moment-là, nous, ben, on était sur l'approche. Et tu sais, Yannick, on se l'est dit souvent, les deux endroits où on est très vulnérable dans un vol, c'est au décollage et à l'atterrissage. Parce qu'on n'a pas d'altitude et on n'a pas encore beaucoup de vitesse. Donc, pour créer de la portance, ça prend de la vitesse. Pour créer du temps en vol, ça nous prend de l'altitude.
Est-ce que les pilotes ont pu jouer un rôle extrêmement précis là, du fait qu'on n'a pas eu de la tragédie escomptée, c'est-à-dire tout le monde est mort? Est-ce que les gars ont eu le temps de faire des manœuvres d'urgence? Parce qu'à l'atterrissage, on le voit clairement, ils atterrissent relativement assez fortement, là. Ça a fait un gros boom à ce qu'on nous a dit là, à l'atterrissage. Est-ce que les pilotes ont eu le temps d'éteindre les moteurs pour essayer de limiter le plus possible les dégâts?
Probablement pas. Ils ont été probablement aussi surpris par ce qui se passait. Et là, voyons, encore là, on spécule.
Ben oui.
On va voir qu'est-ce qui s'est passé, là. Mais ça se passe extrêmement rapidement, là. C'était une histoire de fraction de seconde. Alors, ils ont été probablement autant surpris. Et à ce moment-là, dès que l'aile se sépare, ben, on n'a plus aucun contrôle, là. Sur ce qui se passait. Est-ce que à la dernière minute, ils ont essayé de faire une remise des gaz, voyant peut-être que la vitesse s'est mise à diminuer drastiquement? C'est ça seulement l'enquête là, qui va nous le dire à ce moment-là.
On soit tellement tête.
Mais,
oui, vas-y, vas-y, Charles-Éric.
C'est, encore là, je le dis, moi, je l'ai classé dans mon petit miracle de l'aviation. Je garde ça dans ma colonne-là, puis c'est extraordinaire ce qui s'est passé, malgré tout.
Il y a des gens qui nous écrivent, puis qui ont comme peur, c'est sûr que ça alimente une certaine crainte là, de prendre l'avion. Beaucoup disaient j'avais l'impression que c'était plus sécuritaire qu'une voiture et tout. Quand je vois ça, ça me ramène à une crainte que j'avais mis très, très, très loin dans mon petit bagage. Tu penses quoi de ça, Charles-Éric?
Je le dis, puis à chaque fois qu'on se parle sur un accident, je dis toujours la même chose. Ayez confiance en votre aviation, c'est toujours le moyen le plus sécuritaire de voyager. Moi, je m'en vais avec nos enfants à la relâche. On s'en va en voyage, j'embarque sans aucun problème. Demain matin, je le sais que notre aviation, on a des professionnels qui sont là. Je sais qu'on a des procédures, on a des entraînements. On n'est pas parfait, ça c'est sûr et certain, mais c'est toujours le moyen de transport le plus sécuritaire. Hier, j'étais sur la route, un peu dans la tempête, puis j'aurais préféré avoir les fesses dans un avion que sur la 40 en train de conduire. Ça, ouais. Je vous le garantis.
Je pense que ce qui fait en sorte qu'on a plus peur de l'avion, c'est qu'on perd tout contrôle. On s'assoit dans le siège puis on fait confiance au pilote, tandis que dans la voiture, on a l'impression qu'on peut avoir un certain contrôle. Mais moi, je me rallie de ton côté, effectivement. C'est pas le plus sécuritaire se promener en avion que se promener
ben oui.
En voiture.
Mais Robert,
oui. On parle de l'accident aujourd'hui ou de l'accident d'hier, mais on parle pas des 55 000 mouvements en Amérique du Nord qui se sont passés sans aucun problème.
Exact.
Puis en même temps, rendu là, quand tu es dans l'avion, Yannick, si tu commences à être stressé puis à avoir peur, c'est là que ça n'a pas de sens, c'est ironique. Tu n'as aucun contrôle.
C'est ça.
Faut que tu te dises, ben, au pire, ça va être fini. C'est pas toi qui vas aller à la console du pilote.
Puis le pire, c'est que je me mettais tout le temps proche des ailes parce que je me disais, si jamais il y a un crash, moi, j'étais le premier à crever, fait que je souffrirais pas. Puis là, ben là, ça pète plus, là.
Ça pète plus.
Il va falloir que je prenne d'autres décisions.
Robert Piché, puis son sauvetage, puis son atterrissage incroyable qui a fait les manchettes, est-ce qu'on pense que ça va être un Robert Piché 2, le pilote d'hier?
Moi, j'irais plus avec les agents de bord.
Ah, moi, les héros de cette histoire-là, c'est les agents de bord qui étaient à bord. Essayer de garder le contrôle dans la cabine pour faire une évacuation qui a du sens, ça rate aux agents de bord. Vraiment, c'est eux autres qui ont fait un travail extraordinaire dans des circonstances qui étaient complètement inattendues. On n'a pas le temps de se préparer à ça. C'est complètement pris par surprise, là. Alors vraiment, c'est mes héros de la journée, là. C'est eux. Et aussi, des fois, dans les mauvaises circonstances, il se passe des choses intéressantes aussi. Il y avait un hélicoptère Medevac de la compagnie Orange qui fait le transport héliporté pour l'Ontario, qui était en attente pour un atterrissage aussi, qui a été retenu dans les airs lorsque le crash est arrivé. Et tout de suite, quand le crash est arrivé, ils ont dit « Écoute, nous, là, on est prêts. On est capables de se rendre sur le site de l'accident pour aller porter secours maintenant. »
Wow.
Alors, à l'intérieur de quelques minutes, vous aviez un hélicoptère Medevac avec une équipe de paramédics qui était là et ça l'a probablement, voyons voir comment ces gens-là vont s'en sortir, mais les passagers critiques, on peut être amené dans des délais complètement, pratiquement miraculeux là, jusqu'à l'hôpital. Donc, c'est tout à fait merveilleux, ça aussi. Donc, dans des circonstances comme ça, le travail des agents de bord, la chance d'avoir un hélicoptère et d'avoir un service héliporté qui est là, ce qui nous manque grandement au Québec, là, d'avoir un service public héliporté.
Ouais.
Une grande chance d'avoir ça sur place. Vraiment, là, c'est chapeau.
Charles-Éric, en 30 secondes, c'est tout ce qui nous reste. Les rapports d'incidents de la part des inspecteurs, bon, quand il y a un gros crash, des fois, c'est 12 à 18 mois. Je trouve ça très long. En même temps, il faut qu'ils reconstituent l'accident au grand complet. Là, compte tenu du fait qu'on a la carlingue, que tout est là et que tout le monde est vivant, ça va être un peu plus court?
Bien, assurément qu'on aura des rapports préliminaires plus rapides. D'après moi, là, dans les prochaines... prochains jours qui vont venir, on va avoir probablement une conférence là, du Bureau de la sécurité des transports qui va nous faire une mise à jour un peu sur ce qu'ils ont récolté comme données. Mais normalement, on va parler d'à peu près un rapport comme celui-là, au moins une bonne année là, avant qu'on aille le rapport sur les conclusions et tomber avec les recommandations par la suite là, du Bureau de la sécurité des transports.
Charles-Éric Lamarche, c'est toujours un plaisir de jaser.
Hey, ça me fait plaisir, la gang. Bon midi.
Merci Salut, beaucoup, merci. Charles-Éric Lamarche, est notre expert en aviation. D'ailleurs, son entrevue sera disponible dans les prochaines minutes sur le site de Boulevard, donc blvd.fm. Puis pour les gens qui n'ont pas encore vu le crash puis qui veulent voir le meilleur angle, c'est vraiment sur la page de Boulevard. Vous allez voir, ça a été filmé par un pilote qui était dans son avion sur le tarmac. Puis il filme l'avion dans son approche puis à l'atterrissage, puis on voit tout ça. C'est terrorisant, mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est vivant.
Prends-tu l'avion? Toi, si ça t'arrive?
Oui, sans aucun problème.
Le lendemain?
Le lendemain?
Tu sais, est-ce que tu fêtes ton sentiment de peur et traumatisme ou tu te laisses un petit break de voyage?
Laisse-moi le temps d'aller prendre une bière.
Il s'en va à Bas-Saint-Paul.
On repartira demain. Denis Gravel s'en vient dans les prochaines minutes pour le Pit Stop. D'ici là, si vous avez quoi que ce soit à nous dire, c'est par texto tout le temps, 418-971-101. Merci d'être là.
Yes, mon homme!
Avec Denis Gravel et Yannick Marceau, on refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
3, 2, 1.
La classique boulevard qui va avoir lieu dans à peu près une trentaine de jours. On va avoir besoin de joueurs. Puis là, je vois que mon chum Denis commence à reprendre du poil de la bête après avoir eu le scorbut pendant quoi? Deux semaines, trois semaines à peu près?
Ça, puis l'herpès grimpeur.
On pensait qu'on allait le perdre. Puis là, finalement, il commence à être de plus en plus en forme. Fait qu'il va être prêt pour embarquer sa glace avec nous autres, avec la classique boulevard. Puis on prend cette année un club qui était moins fort que les bouts en feu. Là, parce que l'année passée, on s'est fait...
Vous baissez.
On n'a pas le choix.
Il me semble que c'est un peu loser.
Ben, l'idée, c'est de bien paraître.
Moi, je pense qu'on baisse le niveau cette année. On perd encore. Puis l'année prochaine, on fait ça familial avec les enfants. Tout,
vous vous battez contre les enfants sur la glace.
Oui, oui. On va battre une équipe de Pee-Wee. On va essayer, en tout
cas. Mais là, dites-moi que c'est pas vrai, ça, ce choix-là.
De quoi?
De prendre une équipe moins forte.
Ben là, on n'a pas le choix parce que c'est un tirage en bout de ligne.
OK.
Hein? Mais on aimerait ça que ce soit une équipe moins forte que les boutons en feu pour que notre ego soit un peu gonflé après le match.
Tu sais, ça va être la troisième Winter Classic de Boulevard. Puis moi, la première, je me disais, je vais regarder le calibre. Puis après ça, je vais décider si je joue ou pas.
Ouais, t'as été poule mouillée.
Ah, j'ai rapidement décidé que je jouerais jamais. Donc, je vais être annonceur. Je vais être annonceur. Sa maison, si on veut bien de moi, puis si je retrouve ma voix.
Oui, mais malgré que tu as vu jouer Max, tu as vu jouer Jeff Fortin, tu pourrais être sur la glace. Là.
Je le sais pas. Je pense pas.
Denis, tu pourrais aller plus vite avec une marchette. Là.
Ouais. Je veux pas m'embarquer là-dedans. Mais non, c'est plus les blessures qui me font peur parce que je suis pas entraîné, je suis pas en forme, je suis pas rien. Tu twists une cheville, t'es six mois. J'ai
mais
plus,
là, Denis, t'exagères.
Non, je suis
fait. Juste une partie de hockey.
Je suis fait en carton. Là. Si des gars comme Kachuk et McAvoy sont pas capables de jouer la finale du tournoi des Quatre Nations, je suis pas capable de survivre à la classique de Boulevard. Absolument pas.
Toi, ton défi, ça va pas être... Enfin, ton défi, Yannick, sera tout différent. Ça ne sera de ne pas utiliser tes points.
J'ai un très bon comportement dans les classiques Boulevard, soit dit en passant.
Il est impeccable.
Il dit dans les classiques Boulevard.
Exact. Oui.
J'ai un très bon comportement.
Puis je suis d'accord avec dans les classiques Boulevard. Ouais.
Mais... Mais tu vois, jeudi soir, même si vous êtes contre la violence au hockey, d'après moi, il n'y a aucun de vous deux qui va rater le match jeudi. Là.
J'ai pas l'impression qu'il va y avoir de la bagarre, par exemple. J'ai l'impression que ça va s'aligner bien autrement. J'ai l'impression que ça va starter prudent. Puis est-ce que les États-Unis bluffent ou il y a... Parce que là, les Bruins viennent de confirmer que Charlie McAvoy s'est terminé pour le tournoi des Quatre Nations.
C'est une lourde perte pour les États-Unis.
Énorme. Il a fait la différence. Je sais qu'il y a eu de l'air d'un raisin sur le but du Canada, mais après ça, il a empêché Connor McDavid de faire quoi que ce soit dans ce match-là.
C'est lui qui a fait élever Connor McDavid dans les airs.
Oui, il est allé l'asseoir dans les loges en haut. Là.
les Kachuk sont blessés?
Kachuk est blessé aussi. S'est blessé hier dans un match sans importance. Il a probablement aggravé une blessure qu'il avait déjà parce qu'on avait vu là, que pendant le match contre le Canada, à un moment donné, il est allé s'asseoir sur le bout du banc et il a dit « Coach, moi je peux plus. » là. Donc, il y a quelque chose qui se passe là aussi. Et là, on est en train d'assister Marceau, puis ça me fait vraiment de la peine. Là. C'est la raison pourquoi c'est un concept qui ne tiendra pas très longtemps. Parce que là, les équipes vont chialer.
Ben, les directeurs généraux, je veux dire, quand ils regardaient la game entre les États-Unis et le Canada, ils devaient halluciner. Là. C'est les meilleurs joueurs de la Ligue nationale sont en train de se taper dessus.
Oui, parce que là, mettons que les Bruins viennent de perdre McAvoy jusqu'à la fin de la saison.
Ouais.
Mettons que Tkachuk perd 2-3 semaines. T'sais, ça, c'est les premières histoires. Il y en aura peut-être d'autres, probablement, parce que le hockey est tellement intense qu'il y aura d'autres blessures, il y aura d'autres blessés. Puis les équipes vont être les premières à chialer et à dire « Ben là, nous autres, on perd des joueurs dans un tournoi qui, pour nous autres, a aucune signification puis aucune implication. Ouais. » Ça va être les premiers à faire en sorte que ce beau rêve-là ne durera pas très longtemps, malheureusement.
Tu sais, les Oilers qui voient Connor McDavid se faire visser des bandes.
Ben là, hey, le DG des Oilers, il a manqué mourir du cœur une couple de fois samedi soir. Là. Plus que nous autres, plus que toi puis moi.
Mais jeudi, je pense qu'on va tous regarder le match.
Ah oui, ça va naître toute une. Crinqué à l'os, moi.
Hey, mais vous m'avez crinqué, puis je trouve ça le fun parce que je pense que ben du monde comme moi qui n'ont aucun intérêt, aucune connaissance dans le hockey, sont rendus dans Reg, même chose cette semaine, parce que vous tripez tellement que vous nous donnez ce trip-là.
Mais le sport, ça rallie les gens. T'sais, quand on regarde les Olympiques, là, on est tous Team Canada.
C'est un
moi,
sentiment
le saut à la perche, là, rendu ouais. fan.
Je me souviens de...
Ça prend rien qu'une possibilité de médaille ou un gars que son pénis dépasse de ses shorts, puis soudainement, tout le monde tripe sur le saut à la perche.
La France m'a impressionné à plusieurs niveaux aux derniers Olympiques. Mais arrêtez de partir des rumeurs sur quoi.
La France, au saut à la perche, a une très bonne longueur d'avance.
Oui, effectivement.
Je me souviens encore du Golden Goal, comme si c'était hier. Là. J'étais à la cage au sport sur Laurier de Nice. C'était l'après-midi de mémoire. Mm. Et la cage au sport était bien pleine. Puis quand Sidney Crosby a scoré le Golden Goal, on devenait tous des frères et sœurs dans la place, puis on serrait tous dans nos bras.
C'est pas un...
Sérieux,
c'est pas un feeling qu'on vit souvent.
Toi, t'aurais paniqué ou
vie.
Perdu connaissance parce qu'il y a des gens qui voulaient te prendre dans leurs bras. Là.
Je l'ai fait une fois dans ma vie, tu sais.
Il s'en rappelle.
Le septième match entre les Bruins et les Leafs de Toronto au Garden, quand les Bruins perdaient 4-1 puis qu'il restait 10 minutes et que les Bruins ont remonté puis qu'on est allé en prolongation, le nombre de gros dudes que j'ai pris dans mes bras que je ne connaissais pas, parce qu'entre la troisième puis la prolongation, ils ont juste joué « Don't Stop Believing » de Journey en boucle. Puis tout le monde chantait ça d'un corridor en allant se rechercher de la bière.
Ouais.
Puis dès que tu voyais qu'il y avait un chandail des Bruins, tu le prenais dans tes bras. « We're gonna do this, man! We're
gonna do it, man! » Mais t'étais complètement éclaté d'alcool, là.
Non, c'est vraiment... C'est l'effervescence de vivre un moment.
Ah ouais. Le sport, ça rallie.
Ouais.
C'est ce que ça fait. Puis jeudi, on va tout être le Canada, puis on va regarder ça en souhaitant qu'on massacre les, les États-Unis d'Amérique.
À tout le moins que pour la génération de nos enfants, ils vivent leur golden goal à eux autres. Tu sais, le moment... qu'on va revoir jusqu'à la fin des temps, là, dans la grande histoire du hockey. Là.
Make Canada great again!
Ah ouais, donc!
Tu es d'accord avec ça, c'est vrai?
Oh oui!
Bon, pour une fois.
Je pourrais porter cette casquette-là.
Dans les dossiers un peu plus locaux, les amis, les cols bleus de la Ville de Québec vont déclencher une grève générale illimitée de nuit. Ça va être à partir de jeudi. Donc, tous ceux qui ont des vidanges au chemin, et je fais partie de ceux-là, ben sachez qu'il y a des possibilités qu'on les ramasse un mois plus tard.
Wow.
Donc, on va ramasser jusqu'à jeudi toutes les poubelles de la Ville de Québec et...
Ça fait long quand t'as sorti les affaires de ton ex.
Après ça...
C'est pas la bonne semaine. C'est vraiment pas la bonne semaine.
Et après ça, ça pourrait aller dans un mois, ce qui serait assez hallucinant. Donc, il y a des moyens de pression qui vont être mis en place. On apprend dans un document qui a été partagé avec le syndicat que le déneigement va être affecté. Donc, en deçà de 9 cm de neige, les services vont être réduits et Et ce ne sont pas toutes les artères ni les trottoirs qui seront déneigés. Moi, sérieux, là, c'est à partir de jeudi, vous déneigez les pistes cyclables, mais vous déneigez pas les trottoirs pour les personnes handicapées. Vous allez m'avoir sur votre chemin en sacrament, l'école bleue.
Il faut y aller par priorité, prioritaire.
C'est
là,
ça, occupez-vous des handicapés. Là. Moi, quand je passe à côté de... c'était François Charon, là, maintenant, c'est rendu l'Institut de réadaptation physique de Québec en face de Place Lourdes-Lys. Moi, quand je vois que ce secteur-là n'est pas déneigé, alors que les gens se rendent là en chaise roulante, là, ça me met dans tous mes états.
Il a dit qu'il se battait juste pas quand c'était une game de boule. boulevard.
C'est ça.
Oui, ouais, c'est ça.
Mais le reste, c'est pas pour nous autres.
Pour les trottoirs, seuls ceux de niveau 1 vont être déneigés, ce qui inclut ceux des artères scolaires et commerciales. La collecte des ordures va être organisée uniquement une fois par mois, à l'exception du chargement frontal. Fait que chargement frontal, c'est le camion qui prend ton, qui prend la poubelle de ton immeuble,
oui,
puis qui lève par en avant.
Mm-hmm.
Fait que ça va être correct.
OK.
Mais chez toi, Denis, si c'est le petit camion qui prend le bac et qui l'envoie sur le côté.
Sur le côté, là.
Ça, c'est un mois.
Ah, ça passe plus, ça. OK. Ça commence quand?
Ben, ça serait jeudi. Mais
OK.
Tu sais quoi, mon premier réflexe?
Les poubelles passent demain. Fait que demain, il ne faut pas que je manque l'autobus.
Demain, t'es correct.
Ouais.
Mais c'est ça à quoi j'ai pensé un matin quand j'ai lu ça. Parce que j'avais l'information hier, là, des cols bleus qui m'avaient écrit comme quoi il y avait de fortes possibilités que les ordures soient touchées. Je me suis dit, je devrais pas parler de ça à la radio, mais. On va tout être chez Canac pour aller chercher un 2-3 bacs. Là.
Ça se peut.
C'est 90$ du bac.
90$
hein?
Du bac.
Fait que salutations aux gens de Canac qui vont faire des affaires d'or dans les prochaines minutes. Là.
Mieux l'hiver que l'été pour ce genre de moyen de pression-là, je pense. On est-tu tous d'accord là-dessus?
Absolument.
C'est pas l'idéal, là.
Mais on l'a déjà vécu auparavant, le Vidange Gate, là.
Ouais.
Ça, les rats sortaient de partout. Ah, ça sentait le toxique à grandeur de la ville.
L'été, ce serait vraiment le bordel, puis ça serait vraiment désagréable. Là, tant qu'à avoir des moyens de pression comme ceux-là, j'aime mieux que ce soit fait là.
Et 100% des services qui sont arrêtés pour Expo Québec. Et je vous rappelle qu'actuellement, c'est le tournoi international de hockey Pee-wee qui est là. Puis il y a le salon Expo Habitat. Écoute, aussi en fin de semaine. Donc, ça va être un petit bordel.
J'ai hâte de voir parce qu'on a parlé avec Patrick Dom la semaine passée qui disait que lui, il avait eu des garanties qu'on ne toucherait pas au Pee-wee pendant les moyens de pression. Puis il avait l'air d'avoir beaucoup d'assurance et de confiance dans cette certitude-là. J'espère qu'on va garder cette discipline-là. T'as Expo Habitat, puis t'as le tournoi, puis oui, en même temps, c'est tout un bordel de gestion dans ce coin-là. Peut-être attendre la semaine d'après.
Puis, il y a un auditeur qui me fait penser, parce qu'il y a certains endroits, là, c'est des entreprises privées qui ramassent les poubelles. Donc, dans ton secteur, ce serait Matrec, là. Fait que ce serait à voir s'il y a un impact dans ton secteur.
On va l'apprendre au fur et à mesure. Là. C'est
si
ça
c'est
que
la
tu vas
ville
me dire.
Qui ramasse les poubelles chez vous, ben ça se peut que la prochaine collecte, ce soit dans 30 jours, si c'est pas réglé avec la Ville de Québec.
Chose intéressante, des gens qui parlent aussi du fait d'aller jeter ces ordures dans les poubelles commerciales de commerçants, d'entrepreneurs.
Ouais,
sachez qu'eux,
ouais.
Là, on leur demande de payer selon le poids de leur poubelle. Fait que si tout le monde commence à faire ça, vous leur rendez pas service à ces commerçants-là.
Mais en même temps, quand ça déborde à la maison, on est plusieurs à avoir une coupe de bac alternatif.
Okay, tu plaides coupable.
Ben, je te juge.
Absolument.
On est deux.
Ben là.
Ben, je vous juge.
Des vidanges, c'est des vidanges.
L'autre jour, là, je suis parti de chez nous, les deux bacs étaient bien pleins. Puis, je sais pas si c'est juste cette année, si je suis le
t'as
seul à avoir
sac,
eu ce collant-là. Là, 418-971-1021 par texto. Mais moi, j'avais mon bac de poubelle. Et le bac de poubelle était ouvert d'à peu près un pouce.
Ouais.
Et j'ai eu un collant d'un sous-fifre de la ville qui est passé pour dire que si mes poubelles étaient remplies à rabord, faudrait que j'aie un deuxième bac.
Ben oui. C'est un peu excessif, là.
Parce mon que deuxième, ça devait tomber quand
mon
il
mon deuxième bac, c'est le bac en arrière chez Métro.
Puis mettons, aller le porter, peut-être le bac...
Ben oui, la vraie vie.
À
vie.
Mairie, là.
Ouais.
Non?
On pourrait
dans un endroit ou une infrastructure de la ville municipale.
En face de l'immeuble de Bruno Marchand?
Ça serait peut-être mieux dans un endroit municipal que commercial.
Il y a une catégorie d'ordures aussi qui se place entre le voyage à l'éco-centre et ça rentre pas dans mon petit bac. Moi, j'aime bien ça aller domper d'un bac ceux-là. Là,
ouais.
Puis ça donne que dans appelons ça le secteur Le Bourgneuf, il y a des beaux grands bacs toujours vides qui sont faciles à spotter.
Toi aussi, ces bacs-là, t'es vu?
Ben, tu te parques à côté, fait que...
Vous allez traîner vos vidanges dans vos chars.
Attends un peu, toi, là.
Quoi?
Quand tu as une maison, tu vas voir que des fois, la vie, c'est pas toujours simple.
Ben,
voilà.
J'ai habité dans des maisons, puis la vie était, somme toute, simple quand tu réfléchis.
Ben oui, mais là, c'est ça, là, parce que là, tu vas avoir des chums riches avec des majordomes qui vont faire la sale job pour toi, là. Mais moi, je parle de la vie normale, là, tu sais.
Pardon?
On n'a pas de gens avec des gants blancs qui vont porter nos poubelles au chemin.
On peut pas faire ça, nous
Pardon?
Autres. On n'a pas ce luxe-là.
Hey, faites
autres.
Attention, parce que moi, je vous sors au bac dans pas long, là.
Est-ce que c'est des moyens de pression qui vont vraiment irriter les citoyens de la Ville de Québec?
Comme je te dis, moi, c'est comme ça que je le présenterais.
Ouais.
Tu sais, de dire, on fait des moyens de pression, on les fait dans une période où il y a le moins d'irritants possible pour la population. Moi, c'est comme ça que je le présenterais. Vous voulez pas gérer ça pendant l'été, puis nous autres non plus. Je pense qu'actuellement, c'est raisonnable. à moins de me tromper. Par contre, Expo Québec, je pense que c'est une fin de semaine clé, là, avec Expo Habitat d'un bord puis les Pee-wee de l'autre. Je trouverais ça bien dommage que des moyens de pression fassent en sorte, particulièrement que l'organisation du tournoi de hockey Pee-wee écope, de quelque façon que ce soit. Je pense que stratégiquement, ça, ce serait mal avisé. Mais de présenter les moyens de pression, sont capables des fois, de présenter les moyens de pression puis dire, nous autres, on veut que ça implique le moins possible le citoyen. On peut pas rien faire. Mais on niaisera pas pendant Expo Habitat puis pendant le tournoi Pee-wee. Puis là, oui, les vidanges, on slack là, mais c'est en prévision que ce soit réglé pour pas faire ce genre de choses-là en plein été quand on va avoir du 30-32 degrés à l'extérieur. Moi, je trouve ça vendeur.
Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Autre dossier local, dans le secteur de Saint-Roch, on en parle régulièrement, là, on a perdu quelques établissements qui ont décidé de soit fermer ou soit de déménager complètement parce qu'il y avait des problématiques, que ce soit le stationnement, que ce soit les gens qui passaient du temps en dessous du carpote pour, je sais pas, pour vivre ou pour faire leurs besoins, ce qui fait en sorte que ça a découragé certains commerçants. Là, il y a une perspective qui s'en vient, là, c'est possiblement de voir le gouvernement du Québec retirer ses fonctionnaires hors de Saint-Roch. Dans cet endroit-là, il faut savoir que le gouvernement ne détient aucun immeuble.
Non.
C'est tous des locaux qui sont loués à des entreprises privées. Et là, le gouvernement dit ben, on serait aussi bien de relocaliser nos fonctionnaires dans d'autres locaux qui nous appartiennent. Ce ne serait pas une mauvaise idée, mais ce qui serait dramatique pour Saint-Roch.
Je ne sais pas si tu as pensé à la même affaire que moi, mais on revient toujours à ça. Hein. C'est quoi la relation actuellement entre le gouvernement du Québec et la ville de Québec? Puis si jamais on décide de retirer les fonctionnaires de Saint-Roch, il y a beaucoup de commerces qui ont désespérément besoin de cette clientèle-là. Je pense aux restos du coin, je pense aux microbrasseries du coin et ainsi de suite, qui ont déjà vu une baisse d'achalandage avec le télétravail et ainsi de suite. Des enjeux de sécurité aussi qui font en sorte que les gens quittent le bureau plus rapidement puis feront pas de 5 à 7 dans le secteur. Tu sais, il y a déjà des problématiques. Si le gouvernement fait pas sa part là-dessus, puis un gouvernement, une fois de temps en temps, il faut que ça fasse des statements. C'est carrément un désaveu de ce qui se passe avec la Ville de Québec présentement. Puis c'est de dire, hey, arrangez-vous avec vos problèmes. Et je sais qu'on a été particulièrement sévère, mais juste avec le conseiller Lachance. Mais dans ses déclarations de ce matin, il a raison. On a réussi à revitaliser ce secteur-là avec l'aide du gouvernement qui y a installé des fonctionnaires et ainsi de suite.
On a mis 500 millions avec la Ville puis le privé.
Oui. Mais à partir du moment où le gouvernement retire ses billes, c'est comme dire « Nous autres aussi, on pense que Saint-Roch est mort, puis organisez-vous avec votre troupe. » Ce serait, écoute, une gifle en pleine tronche pour Bruno Marchand. Rien de plus, rien de moins.
Oui, puis ce serait dommage pour les commerçants de la place.
Oui.
Mais mettons qu'on est des contribuables, puis on regarde ça à froid. Est-ce que le gouvernement, s'il sauve de l'argent, on est heureux, nous, de notre côté?
C'est comme ça qu'ils vont nous l'expliquer, c'est comme ça qu'ils vont nous le vendre, puis c'est comme ça en tant que citoyen qu'on va voir le côté positif de la chose.
Parce que j'ai des amis fonctionnaires qui travaillent de la maison plus souvent qu'autrement maintenant. Puis là, ben, des bureaux partagés au gouvernement, on est en train de penser à faire ça. Donc, si c'est 2 jours, 3 jours, ben l'autre, il va être là, il va pouvoir être là 2 jours, 3 jours, tu le croiseras probablement jamais.
Tu sais qu'à Ottawa, ils ont la même problématique, hein, puis le gouvernement a décidé que pour l'instant, on faisait pas plus de télétravail, puis qu'on incitait les gens à revenir au bureau, puis la seule raison qu'on a, c'est parce solidarité envers les commerçants, par solidarité envers les gens qui ont des business et ainsi de suite, puis qui ont besoin de voir du monde sur l'heure du midi, les soupers, puis ainsi de suite. Puis
pendant ce temps-là, le gouvernement perd de l'argent.
Je suis d'accord avec toi à 200%.
En tant que contribuable, il faut se le mettre en tête.
Oui.
Est-ce qu'on accepte de perdre de l'argent puis d'en donner à l'entreprise privée ou on relocalise nos fonctionnaires à l'intérieur de nos bâtisses qu'on paye déjà, mais à qui, des fois, on permet le télétravail, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin d'autant de pieds carrés?
Si on fait juste regarder les chiffres sur la colonne de chiffres puis sur la calculatrice, je suis d'accord avec toi à 200%. Mais t'es-tu d'accord avec moi pour dire que si jamais, pour quelque raison que ce soit, puis ça va être des raisons économiques, le gouvernement décide, là, d'enlever ses fonctionnaires à Saint-Roch, c'est le coup fatal.
Ouais, comme,
c'est quoi l'image que le conseiller Lachance utilise?
Capitaine Bretel dit « ce serait tirer un coup de dose dans la chaloupe ».
C'est exactement ça.
Avec tous les efforts qu'on a mis.
Ouais. Ça, c'est sur le jeu de clous, là, c'est le gouvernement qui a fait le coup fatal avec, avec le chandelier.
On dit que la pandémie a fait chuter le nombre de travailleurs dans le secteur. 2011, il y avait 12 700 travailleurs comptabilisés. Et le recensement de 2021, c'est à peu près la moitié qui reste.
C'est déjà. Tu peux pas... Tu peux probablement pas freiner ce qui se passe présentement dans Saint-Roch. Tout est une question de message et de statement rendu là. Mais à ce stade-ci, tu peux pas prendre les fonctionnaires qui restent et dire « nous autres, on déserte le secteur ». À moins d'arriver avec autre chose, à moins d'arriver avec une contrepartie, à moins d'arriver avec des solutions pour relancer le secteur de Saint-Roch. Mais on sent pas le gouvernement très impliqué hein, dans ce dossier-là à date en passant.
On retire tous les itinérants de Saint-Roch, là. Ça va-tu mieux, Saint-Roch?
Oui. C'est plate à dire, hein? Mais oui, il y a un enjeu de sécurité. Il y a des gens, puis je pense que c'est le propriétaire, un des propriétaires de la microbrasserie, le Noctem. C'est des jeunes entrepreneurs, c'est pas des gens qui sortent souvent, mais lui, il expliquait sa dynamique. Il dit, moi, là, il y a une grande partie de ma business que c'est les gens qui travaillent ici. Mais là, les gens qui travaillent ici, il y en a la moitié qui viennent plus.
Exact.
Puis l'autre moitié, un coup que la job est finie, ils ont hâte de sacrer le camp. Parce que le quartier n'est plus sécuritaire. Le secteur n'est plus sécuritaire. Les gens qui vont voir un spectacle le soir, avant, ils arrivaient plus de bonheur. Ils venaient prendre une bière, ils venaient manger un peu. Là, ils vont à leur spectacle, puis après ça, ils rembarquent dans le char, puis ils s'en vont plus sacrant. Il y a une partie des problèmes qui se règlent si on fait disparaître en l'espace d'un claquement de doigts toute l'itinérance puis toute la problématique de santé mentale dans Saint-Roch. Mais tu peux pas faire ça. Tout ce que tu prends, c'est que tu les prends puis tu les déplaces. Tu les envoies ailleurs. Tu pitches le problème à quelqu'un d'autre.
Mais t'sais. Est-ce que Saint-Roch est viable à long terme avec ces itinérants qui sont de plus en plus nombreux à Saint-Roch?
Écoute... comment on fait pour empêcher des gens de se retrouver à la rue? Comment on fait pour prendre les gens qui ont besoin d'aide à la rue puis essayer de les encadrer davantage? T'as ta solution, tu la répètes souvent. Je la trouve pas bête du tout.
Une fois tu te fais prendre, t'es en situation d'itinérance, t'es sur le trottoir, t'as rien à faire là, on te donne un avertissement. Deuxième avertissement. Troisième avertissement, ben je m'excuse, on a un endroit pour toi, tu vas falloir que tu ailles te faire soigner parce que t'as des problèmes d'alcoolisme, t'as des problèmes de toxicomanie, t'es un danger pour toi-même, t'es un danger pour les autres. Fait que tu vas venir faire un tour à Robert-Chefort, on va rouvrir ça, puis tous les thérapeutes possibles vont être là pour t'aider à réintégrer notre belle société. Non, mais je veux continuer à vivre dans Saint-Roch. Non, mais ça marche pas.
On va s'assurer que tu prennes les médicaments que tu as besoin, puis on va faire notre possible pour que tu prennes pas les cochonneries que tu n'as pas besoin. T'sais.
Une désintox.
C'est des gens qui ont besoin d'encadrement puis qui ont besoin d'aide.
Exact.
Puis il y en a de plus en plus, puis ça fait partie de ce qui a, mon Dieu, de ce qui a régressé terriblement dans Saint-Roch depuis 5 ans.
T'sais. Beaucoup aussi de problématiques dans le coin des bars. Là. Ça, c'est plus dans la vie nocturne que tu le vois.
Ouais, ouais.
Recrutement, là, les gars, j'ai jamais vu ça. Je sais pas si depuis l'automne ça a slacké, là, mais cet été, là,
le
printemps
de quoi?
Été, proxénétisme.
Des petites filles?
C'était épouvantable dans les bars. Là. Puis pourquoi je suis capable de l'affirmer, c'est que j'ai posé des questions après une situation que j'ai eue devant moi que j'étais pas sûre, puis qu'un de mes amis a comme confirmé par comment il s'est fait approcher, puis après ça, le pimp est arrivé, puis il demandait le cachet d'avance, puis disait, je sais pas, ça s'est calmé. Mais la dernière situation que j'ai vécue, c'est en sortant des bars. Nous, on a pris, mettons, 2-3 verres avec une gang d'amis. On sort, puis la police est partout. Puis c'est bien parce qu'ils faisaient une opération policière. Mais se faire screener comme ça, pas pour l'alcool au volant, pas pour ivresse, mettons, sur la route, ivresse urbaine, là, pas du tout. Savoir si on est amis et ou s'il y a quelqu'un en danger dans les regroupements de jeunes.
Mais tu sais, on est dans un contexte où, avec le rêve de l'argent rapide, on convainc des adolescents d'essayer de tuer du monde puis de les impliquer dans une guerre de motards criminalisés. Dans ce contexte-là, qu'on fasse planer le même rêve d'argent facile à des jeunes filles pour faire de la prostitution, il n'y a pas grand-chose de surprenant là-dedans,
mais je
malheureusement.
Pas que aussi dans nos faces. Mm-hmm. Parce que j'avais entendu parler il y a peut-être 6-7 ans, puis j'avais fait un mini-reportage là-dessus et autres dans les centres commerciaux. On passera pas à côté, il y avait pendant un bout puis des boutiques aussi qui étaient visées, mais il y avait du recrutement là qui faisait, puis les cadeaux, puis les gars étaient reconnus pour venir avec différentes jeunes filles. Puis il y avait eu une couple d'informations qui étaient sorties. Tu sais, on parlait plus autour des centres jeunesse pendant un petit bout, mais après ça, ça a été beaucoup plus que la jeunesse qui est peut-être en situation de détresse psychologique. Là. Ça a été n'importe
qui. Mais tu t'en rends compte parce que tu es plus observatrice que la moyenne. Ben, il y a peut-être aussi que tu es tout le temps dans les bars chaque soir, mais tu t'en rends compte parce que tu es très alerte.
La belle vie de jeune célibataire.
Exactement. Hein? Exactement. Ma soirée de Saint-Valentin de la semaine passée, ça n'a pas fonctionné. Pas réussi à matcher avec ceux qui font des beaux poèmes.
Non, ça n'a pas marché. C'est malheureux.
Mais on les a fait gagner. Ils ont gagné de la poutine puis des beaux objets du 7e siècle.
Exact. Hier, Denis, vous avez reçu Judith Desmeules. Oui. J'étais dans mon char. J'étais enragé. Salutations à Judith Desmeules qui fait vraiment une maudite belle job. Puis en plus, quand elle vient ici, on sent à quel point... Bon, les journalistes, des fois, on les trouve un peu raides. Là. On les trouve froids. Mais elle, on voit à quel point c'est une femme humaine comme pas possible. Puis elle me racontait l'histoire de Dominique Laroche puis sa pauvre victime qui a connu à l'âge de 13 ans. C'est, cette histoire-là, c'est tout ça, c'est vrai, parce que Dominique Laroche n'a pas été déclaré coupable. Là. C'est 25 ans de prison minimum. Là.
Ben écoute.
50 peut-être, ou je mettrais 75 sur mon île où je serais le principal dictateur. Là. 75 ans. Mais cette histoire, une petite fille de 13 ans, Denis.
Ça n'a pas de bon sens. Une fille qui... pense découvrir l'amour et la sexualité parce qu'un adulte la manipule dans ses perversions, puis ainsi de suite. Puis je veux saluer Judith parce qu'elle fait un job extraordinaire, évidemment, comme journaliste judiciaire dans Le Soleil. Mais quand elle vient s'asseoir avec nous autres, c'est le côté humain qui ressort beaucoup. Puis ça, c'est ce qu'on voit moins dans des textes, tu sais, quand tu lis des comptes rendus de palais de justice et ainsi de suite. Mais quand Judith vient nous raconter ce qui se passe dans la salle de cour, comment les gens réagissent et ainsi de suite, elle le fait avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'émotion. Puis je pense que ça touche beaucoup de monde. Ça touche toi, ça me touche moi. À chaque fois qu'elle vient nous raconter ces choses-là, on sent qu'elle prend ça avec cœur et sensibilité. Puis encore une fois, hier, en nous racontant le témoignage de la présumée victime, je veux dire, c'est une histoire qui s'écrit d'elle-même. Puis comment le gars va assurer sa défense alors que déjà, il y a trois avocats qui lui ont dit « Hey, regarde, t'enligner comme tu veux t'enligner, arrange-toi donc tes troubles. » Ça va être intéressant. Le contre-interrogatoire, c'est aujourd'hui. Puis à un moment donné, il y aura à témoigner... C'est une histoire horrible.
Comment un homme parfaitement construit peut abuser d'une petite fille qui a des problématiques avec sa famille, qu'il reçoit chez elle? La petite fille s'occupe de ses enfants. Ça devient pratiquement sa deuxième famille, presque sa vraie famille. Et lui commence à tisser un lien avec elle qui va au-delà de l'amour père-fille. T'sais. Il y aurait eu une attirance sexuelle à son égard, puis il se masturbait à côté d'elle pendant qu'il écoutait un film. Ça a de l'air qu'il n'y a personne qui a vu ça dans la maison pendant que Dominique Laroche se masturbait et que la petite fille était à côté. Puis par la suite, sa première relation sexuelle aurait été une relation anale. Sa première relation sexuelle à vie, c'est une relation anale avec un homme de 46 ans à l'époque. Ça a juste pas de bon sens. Puis pendant toutes ces années-là, Denis, parce qu'on nous a parlé du fameux donjon sexuel là, qui était chez Dominique Laroche.
La salle de sexe. Là.
On nous parlait aussi d'un garde-robe où il y avait un matelas à terre dans son bureau.
Les outils faits maison.
L'ADN de Dominique Laroche et de la présumée victime qui ont été retrouvés sur les outils jouets faits maison. Pendant toutes ces années-là, il n'y a personne qui s'est jamais rendu compte de rien. J'y vais avec une hypothèse. Il n'aurait pas dû juste avoir une arrestation dans le dossier.
Écoute, c'est une question qu'on soulève très souvent dans des cas très célèbres. On peut revenir à Nathalie Simard puis Guy Cloutier, si tu veux. On se posait les mêmes questions à l'époque. T'sais, comment une jeune fille peut être agressée sexuellement à autant de reprises dans un entourage où tu as une femme, où tu as une famille et ainsi de suite. Puis souvent, ce qui ressort, c'est que les gens aiment mieux faire de l'aveuglement volontaire que de s'admettre la vérité. Tu sais, quand quelqu'un de ton entourage, puis j'ai parlé hier avec quelqu'un qui a côtoyé un petit peu Laroche,
Puis lui, il était complètement fessé là, de ce qu'il a entendu dans le témoignage de Judith hier après-midi. Il n'en revenait pas. Là.
Pour lui, il s'attendait jamais à ce que ces faits-là soient collés.
C'était impossible. C'était impossible, juste impossible. Puis on le voit beaucoup aussi. La première réaction après des accusations, puis je reviens à Guy Cloutier, il y en a beaucoup qui publiquement ont pris sa défense en disant « Ben non, mais ça se peut pas, c'est mon ami. »
Il y en a qui font de l'aveuglement, mais les bons
René Angelil, entre autres, trouvait que c'était impossible parce que c'était son ami.
Ben, les fins manipulateurs, les gars, là, sont réputés pour, dans leur entourage, être capables d'endormir à un point où jamais, jamais tu vas te douter d'eux. C'est l'arrangement autour de la victime et l'arrangement autour des proches, là, c'est deux choses qui gèrent d'une manière impeccable. C'est des gens malheureusement brillants psychologiquement.
Je comprends ça. Là. Ça demeure des hypothèses, mais pendant toutes ces années-là, dans cette maison-là,
je suis d'accord avec
il n'y avait
toi,
pas juste lui qui vivait là avec la petite.
Puis qu'elle, elle dise rien, ça veut dire c'est quoi le contrôle qu'il exploitait autour d'elle? Tu comprends ce que je veux dire?
Je comprends, mais que lui était seul avec la petite dans cette maison-là qui était entourée de plein de monde, là, puis qu'il y ait une arrestation, moi, ça me surprend.
Je suis dans ton camp. Je suis surprise.
Je veux dire, tu sais, il y a de l'aveuglement volontaire, là, puis il y a de l'aveuglement carrément. Là. Pis, ou bien le monde, t'es crissement niaiseux.
Puis interprète ça comme tu veux, mais les membres de la famille de Laroche ne sont pas au palais de justice.
Exact. Exact.
Ils sont pas là.
Puis je pense pas qu'ils renouent vraiment avec leur frère. Puis pour avoir côtoyé les gens de la famille Laroche, pas de près, mais professionnellement, ces deux frères, c'est des diamants. Là.
Mm-hmm.
Lui, c'est visiblement le mouton noir de la famille.
Ouais. C'est une histoire horrible. Ça va se poursuivre au palais de justice. Puis, by the way, là, on a échangé avec Judith. Là, s'il y a des choses qui ressortent encore cette semaine, Judith va revenir faire un tour dans l'après-midi. Là.
Sa défense, ça va être quoi? Donc, on y va avec des hypothèses.
Il n'y a pas grand-chose. T'sais, tu peux pas te défendre en disant que c'était une relation consentante. T'étais en situation d'agression et d'autorité avec une mineure. Donc, tu peux pas utiliser cette défense-là. Tu vas nulle part avec ça. Peut-être que la seule porte de sortie qu'il pourrait essayer, c'est de dire avant 18 ans, il s'est rien passé, puis après ça, c'est une relation consentante.
C'est ce qu'on pense.
C'est peut-être la seule porte de sortie là, qu'on peut voir à prime abord.
Je peux-tu saluer quelqu'un avec tu t'en aides?
Ben, qu'un.
Le chum de la victime. Le chum de la victime a fermé sa gueule parce que sa blonde, il a dit « Dominique Laroche m'a fait telle affaire à partir de 13 ans ». Il a fermé sa gueule puis il a respecté le secret jusqu'à temps que Dominique Laroche rencontre la fille du chum de la victime qui avait pas 18 ans à l'époque.
Exact.
Et là, il lui a dit devant lui « Dommage qu'elle ait pas 18 ans ».
En flattant le dos.
Et c'est là que lui, son déclic dans sa tête, ça a été un peu, là. C'est parce que lui, il côtoie d'autres enfants.
Mm-hmm.
Moi, je peux pas dormir à soir sans faire ce téléphone-là.
Ouais.
Il a fait la bonne chose. Il a appelé la DPJ. Il a dit, voici Dominique Laroche, il aurait fait telle affaire. La DPJ a enquêté. La victime a décidé d'embarquer dans le dossier. Et c'est là que lui, on a procédé à son arrestation.
Puis bravo, parce qu'elle l'a fait hier avec énormément d'aplomb. Ouais. Et c'est une situation que c'est pas nécessairement elle qui a initié, je veux dire, le processus judiciaire. Il y a beaucoup de monde qui ont eu des décisions importantes à prendre dans ce dossier-là, des décisions morales, des décisions éthiques. Puis j'ai l'impression qu'à date, tout le monde a pris la bonne décision pour que tout ça aille de l'avant puis qu'on se retrouve avec une sentence sous peu. T'sais.
Mais c'est dur, elle devait se sentir coupable par les sentiments.
Absolument.
Qui étaient faux, mais qui étaient quand même apparents.
Elle est en amour avec.
Elle est en amour. Puis tu sais, elle a 30 ans là, en ce moment quand elle témoigne. Là. C'est jeune. Là.
L'enfer.
Quelle colonne vertébrale. Là. Ça... J'espère qu'elle est bien entourée et elle le sera pour la suite. Mais...
Il semble que ce soit le cas. C'est ce que Judith nous disait. Ouais. Ça a l'air qu'elle est bien entourée, elle est bien protégée, elle est bien encadrée. Tant mieux. Tant mieux.
Si puis le temps que ça a pris pour le dénoncer, bon, on ne pourra jamais juger ça. Il y a des victimes qui vont dénoncer sur le fait ou demain matin. Je vous salue. Puis il y a des victimes qui vont dénoncer 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, puis 20 ans plus tard. Puis je vous salue aussi. Le temps, là, c'est vous autres qui allez décider quand est-ce que vous allez sortir.
Exact.
Mais si vous voyez quelque chose, si vous entendez quelque chose, si vous voyez qu'il y a des enfants qui pourraient peut-être être susceptibles d'avoir le même traitement que votre ami a eu ou que votre conjointe ou que votre conjoint a eu, le réflexe du gars là, aux États-Unis, quand tu te promènes dans le métro, c'est à New York surtout, c'était écrit « If you see something, say something.
Ouais. »
Ben lui a fait la bonne chose. Pis c'est ce qui fait qu'on a peut-être, parce qu'il n'a pas été déclaré coupable, on a peut-être retiré un prédateur sexuel de la société.
Exact. Exact.
Merci, Denis.
Hey, merci, vous autres.
Midi 33, on revient. Marceau. Midi 40, comment ça se passe sur la route? tout est bien délingé. C'est encore un peu de poudrerie. Vous avez des choses à nous dire. Il y a des sorties de route. C'est le 418-971-1021. Je lisais tantôt à Montréal. 8 jours pour délinger le centre-ville.
Et en fin de semaine, Yannick, là.
Et 70 cm depuis le 13 février. Ça va prendre 8 jours uniquement pour le centre-ville de Montréal. Puis Laval, je pense qu'ils ont eu un petit peu de neige, Pascal, là. 13 jours.
En fin de semaine, on a pu constater ça avec l'amoncellement de neige. Je l'ai comme ça, là. Si en 8 jours, c'est fini, je suis quand même surprise.
Ouais.
Tu sais, souvent, on dit qu'à Québec, on est chanceux pour le déneigement. On déneige même quand il n'y a pas de neige, là. Peut-être qu'on peut se considérer chanceux cette fois-ci dans la façon de faire.
Oui, mais ça a bien été à Québec, dis-moi. Là,
oui, absolument.
Je roule pas mal ces temps-ci, puis c'est très bien déneigé.
Encore ce matin, là, il y avait des interdictions de se stationner dans les rues. Tu avais autant la gratte qui était en synchronisation avec la petite gratte de trottoir. Mm. Hey, c'est intelligent, là.
Vraiment.
Faut le faire.
On les salue. C'est de longues heures à travailler, les amis, puis ils dorment très peu. Donc, c'est important de leur dire un gros merci quand on les croise.
Absolument.
Moins 14 degrés sur Québec avec le refroidissement éolien. C'est une température ressentie de moins 24 aujourd'hui. C'est nuageux. Des probabilités d'averse de neige à 60 % maximum de moins 12 degrés. Ce soir, cette nuit, neige intermittente, accumulation de neige de 2 cm par endroit. Des températures stables à près de moins 13 degrés. Demain, mercredi, ce sera nuageux avec 40 % de probabilité d'averse en matinée. Des averses de neige, bien entendu, maximum de moins 6. Jeudi, alternance de soleil et nuages, maximum de moins 1. Et vendredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de moins 5 degrés. Article hyper intéressant que j'ai lu ce matin. C'était sur le site, si je ne me trompe pas, de la presse, hein, Pascal?
Pour le texte où on s'en va, là?
Oui, c'est ça. Oui. C'était sur le site, excuse-moi, de Radio-Canada, où on parlait de voyants rouges avant le lancement du fameux sac-clic. Je ne sais pas si tu te souviens de ce moment-là, Pascal, mais il y a des gens qui faisaient la file devant la Société de l'assurance automobile du Québec parce que le sac-clic, ça ne fonctionnait pas. Là, à un moment donné, il fallait que tu prennes rendez-vous pour être capable de gérer tes affaires. Puis des fois, les rendez-vous n'étaient pas toujours disponibles.
Tu avais la presse en tête parce que la presse a fait de nombreux dossiers martelé. Puis, tu sais, là, ce qu'on a su, c'est que ça a coûté pas moins de 41 milliards de dollars dans le courant des derniers mois. Puis ça, c'était la presse qui l'avait rapporté. Mais tu trouves pas ça étrange qu'on fasse un texte ce matin par rapport à Radio-Canada sur SAQ Click qui aurait mal fonctionné? C'est ironique, mon commentaire, là.
Ben, c'est la vérificatrice générale du Québec qui doit présenter jeudi un rapport qui porte sur
le lancement
raté de SACLIC. C'est 2 ans après la mise en service de la plateforme qui a provoqué de longues files d'attente devant les succursales. Il y a des gens qui se sont vus interceptés par les policiers parce qu'ils se sont fait dire qu'ils n'avaient pas régularisé leur situation avec leur permis de conduire leur immatriculation. Puis là, les policiers, bon, ils savaient, mais il y en a qui se sont fait remorquer quand même. Là.
Au début, après ça, on a ajusté, on a dit, bon, on laissait un genre de délai à ces gens-là, mais le pire était des gens qui avaient des traitements, tu sais, il y avait des histoires qui fusaient de partout.
Ouais.
Puis ici, à Boulevard, on avait reçu quelqu'un, des traitements médicaux à aller passer aux États-Unis, puis ça était extrêmement cher à la base, fait qu'ils avaient décidé d'y aller avec leur roulotte d'été, là, de camping, mais c'est parce qu'elle était remisée. Fait que là, pour la faire déremiser, c'était impossible. C'était le chaos.
Les chums camionneurs. Les chums camionneurs faisaient du US, eux autres, il y avait toutes les difficultés du monde à se faire approuver.
Puis ils s'en foutent, là, eux autres, là, aux États-Unis, pareil, si ça qui clique fonctionne pas, là.
Donc, c'était le gros bordel. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'un mois avant le déploiement de sa clique qui a viré au fiasco, bien, il y avait des voyants rouges qui s'affichaient sur le tableau de bord de la société d'État. Et ça, c'est ce que révèlent des documents qui ont été obtenus par Radio-Canada. On a eu l'idée d'en parler avec un gars qui connaît ça pas pire, l'informatique. Son nom, c'est Patrick Mathieu, qui est expert en cybersécurité et cofondateur du Hackfest. Salut Patrick!
Salut tout le monde!
J'imagine que toi, on t'apprend rien là, avec l'article de Radio-Canada d'aujourd'hui, mais n'en demeure pas moins que c'est surprenant. Voyant toutes les lumières qui étaient allumées pour dire « on s'en va dans le mur, les amis », c'est vraiment surprenant que les fonctionnaires aient dit « non, c'est beau, on met ça en place, puis advienne que pourra ».
Ben, tu sais, c'est la preuve qui nous manquait. On savait tout, on avait toutes les fleurs d'alerte. Ils nous ont écrit pour nous dire qu'ils n'étaient pas prêts, etc. Là, Radio-Canada nous a envoyé un document, puis tu sais, je l'ai ouvert devant moi. La première page, la page 2, dit clair, là, officiel, encerclé en rouge, qu'ils vont arrêter les services pendant 21 jours pour faire la transaction, pas la transaction, mais la transformation de l'ancien système vers le nouveau.
On s'en souvient de ça, oui.
Oui, exact. Ça commence là. C'est 21 jours consécutifs hors ligne pour faire les dernières mises à jour avant d'aller en production. N'importe quelle entreprise sur la planète que tu vois à ton boss dire on ferme la business pendant un mois pour faire une mise à jour, soit il te retourne faire tes devoirs, soit il te met dehors. Là, aujourd'hui, encore une fois, tous les responsables à la SAC qui sont responsables de ce désastre sont tous en place. Personne n'a été mis dehors. Il n'y a aucune imputabilité. Mais, moi, je trouve ça...
Ouais. Il y avait quelqu'un qui était sous le conseil d'administration qui s'était fait changer d'emploi. Là. Mais effectivement, tu as raison. Il n'y a personne qui a été... On a tapé sur les doigts de personne.
Puis ce qui est triste, c'est que dans l'équipe, Yannick, là, il y a du monde qui mettait au pilori un peu leur boss puis ils n'étaient pas écoutés. Au sein de l'équipe. C'est comme si nous, là, on dit à nos boss, ça n'a fait aucun sens. Ouais. Il faut faire telle affaire. Puis les boss nous regardent en disant, ben vous le faites pareil.
Puis pour avoir parlé, Patrick, avec un porte-parole de la SAAQ à l'époque, lui, ce qu'il me disait, c'est que la SAAQ avait fait un choix de ne pas virer sur l'ancien système. Tu sais, un genre de système parallèle qui fait en sorte que si ça clique, ça ne fonctionne pas. On peut traiter l'information avec l'ancien système qui datait, je pense que c'était du début des années 80 ou fin 70 de mémoire. Là. Donc, toutes les décisions qui avaient été prises n'avaient comme pas de bon sens pour des experts en informatique. Là.
Non, exact. Puis c'est la manière de faire, là, de dire tu utilises l'ancien système, mets une nouvelle fonction en place du nouveau système. Tu sais, là, tu transfères, je ne sais pas, le paiement des permis de conduire. Ça, ça marche, on l'a testé, on le met en production. Il en reste 20 à faire, tu le fais pendant un an s'il faut. Ou tout est prêt, puis tu fais le changement. Mais là, ce qui est intéressant là-dedans, tu sais, tu disais les voyants rouges. Ce qui est bizarre du document de Radio-Canada, c'est que les voyants étaient verts. Le document complet dit « Voici le statut de qu'est-ce qu'il reste à faire pour le prochain mois. » Puis il y a des 20-30 d'éléments qui sont restants à faire un mois avant. Là.
Quand on parle des tests d'intrusion, Patrick, là, on dit que les tests d'intrusion n'étaient pas réalisés à 82 %, donc il en restait encore à faire. De quoi on parle avec ces fameux tests d'intrusion-là?
Bien, c'est de tester ce qu'on a développé de nouveau, si c'est sécuritaire, oui ou non. Mais tout le reste du document, c'est ça aussi. Là. C'est des tests ou des fonctionnalités qui ne sont pas finies, entre 40 et 80 % à peu près, qui disent bien, le prochain mois, on va tester ça et on va finaliser ça. Mais ce que tu vas trouver, peu importe que ce soit le test de sécurité ou le test normal, tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Et souvent, quand tu trouves quelque chose de majeur ou de un truc de sécurité, pas des problématiques qui se règlent en deux jours. Là. Souvent, ça peut être quelque chose de très complexe qui peut prendre des mois.
Puis ça ouvre aussi à des pirates informatiques de l'extérieur quand il y a des brèches comme ça. Puis tu dis, gouvernement est supposé...
C'est ça. Tu dis...
Mais Patrick, on en parlait ensemble là, dans la dernière année, là, je pense, une fois ou deux semaines, OK? Puis on en parlait dans une émission de radio de même, en commentaire, t'analysais ça, tu disais la même chose qu'en ce moment. Comment ça se fait qu'il faut un rapport pour qu'on prenne les choses au sérieux? Puis encore là, est-ce que tu as l'impression que ça va avoir un impact?
Zéro impact. Ça n'existe pas, l'imputabilité au gouvernement. C'est triste. Puis vous l'avez dit au début, là, ils ont déplacé le PDG dans un autre gouvernement, un autre ministère. C'est pas une tape ses doigts, ça. Là. Ils ont juste donné une promotion ailleurs.
Exact.
Tu sais, si on ouvre l'organigramme du site web de la SAAQ, puis vous regardez la VPTI, là, la vice-présidence de l'informatique, ils ont une cinquantaine, je pense, de gestionnaires. Ils sont tous là encore. C'est eux qui ont fait ce rapport-là. C'est eux qui l'ont présenté. Oui, la direction a décidé quand même d'aller de l'avant. Mais tu sais, tous les petits problèmes là, qui sont notés dans le document, là, c'est tous des petits cercles verts. Il n'y a aucune gestion de risque. C'est pas dit, bon, on est rendu à 40%, le risque est un problème égal ça. Il n'y en a pas. Il y a deux, trois places, c'est écrit « impact élevé ». Mais impact élevé de quoi? Ça se peut qu'il y ait d'autres documents qu'on n'avait pas, etc. Mais ça reste que tout ce qui a été montré dans ce document-là a été ignoré ou mal expliqué comme quoi que le risque était extrêmement grand. Mais de ce qu'on sait, comme vous avez dit, puis comme on a reçu plein de lanceurs d'alerte, ils l'ont dit sans des dizaines de reprises qu'ils n'étaient pas prêts. Fait qu'il y a quelque part dans la chaîne quelqu'un qui soit a changé le message ou soit la direction a totalement ignoré le tout. Là.
Et ça, on le nomme pas.
Bien sûr, on le saura jamais.
Puis pourquoi on fait ça? C'est-tu à saveur électoraliste? On a hâte d'implanter quelque chose, puis au pire, ça va fonctionner parce qu'on se ferme les yeux puis on se dit « Ouh, ça va être correct ». C'est pourquoi est-ce qu'on veut aller aussi vite? C'était quoi qui urgeait?
C'est dur à dire, mais de ce qu'on voit, peu importe les problématiques en informatique au gouvernement du Québec, puis même quand on parle à beaucoup de fonctionnaires, le point principal, c'est la majorité des gestionnaires en place n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils font. Je veux pas dire tout le monde, là, mais il y a beaucoup de gestionnaires, mettons, en sécurité qui n'ont pas de connaissances en sécurité. Fait que je me dis, si c'est le cas en sécurité, c'est peut-être le cas en TI aussi, là. Et je dis pas que les employés en dessous savent pas ce qu'ils font. Ils sont gérés souvent par quelqu'un qui savent pas ce qu'ils font. Récemment, on avait des rencontres avec l'Access, on avait des rencontres tous les mois avec la communauté, puis certaines personnes nous disaient que pour gérer l'infrastructure complète d'un ministère, la personne est toute seule. Puis dans une entreprise privée, pour la grandeur, ce qu'ils sont, ils sont supposés être 15-20. Fait que là, la personne est toute seule, son gestionnaire en plus, supposément, connaît pas les choses. Puis lui, pour pas perdre sa job, qu'est-ce que tu penses qu'il dit au boss du boss? Mais les patrons disent, ben tout va bien. Fait que là, le patron d'au-dessus dit, ben oui, tout va bien. Fait que là, ça montre que tout va bien tout le temps. C'est au MCN, là, quand il y a eu beaucoup de personnes qui ont quitté l'année passée du monde de la communauté du Access et autres,
ouais.
Ben, c'était ça le problème aussi, là. Ils ont dit, ben pour faire mieux les choses, voici ce que vous devez faire. Fait que qu'est-ce qui s'est passé en bas? En bas, il a dit, ben on n'a pas ça en place. Fait que les patrons ont dit, ben oui, tout est beau. On a ça en place pour pas qu'ils se fassent mettre dehors. Fait que là, c'est un cercle vicieux comme ça de gestionnaire, de puis là, t'as pas d'imputabilité, t'as des syndicats. On retourne en rond. On peut rire avec ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, là, mais le Dodge québécois, là, à un moment donné, il va falloir qu'il arrive aussi. Là.
Puis la santé, ça s'en vient, ça? On veut faire un genre de virage aussi en santé sur nos plateformes, un peu comme la SAQ Click. On a-tu mis un frein à ce train-là qu'on voulait prendre?
Aucune idée, mais tu sais, si on voit ce qui se passe partout, est-ce qu'on pense vraiment que ça va être différent? Il va falloir le voir pour le croire.
Écoute, moi, j'ai été à l'hôpital il y a deux semaines, puis on me demandait encore, partout où je passais, à chaque fois que je rencontrais un professionnel, là, on me demandait encore ma carte d'assurance maladie. On me demandait à l'hôpital si je pouvais avoir ma carte d'hôpital. Puis là, il a fallu que je rencontre quelqu'un qui m'a fabriqué une nouvelle carte d'hôpital en plastique. Alors que juste avec le code de la carte d'assurance maladie, t'es supposé de savoir je suis qui.
C'est toute la même information. Ça, c'est drôle parce qu'on en a parlé sur un de nos podcasts. On a dédié un épisode à ça. La carte d'assurance maladie, c'est la carte d'hôpital copie les informations de la carte d'assurance maladie. Parce que c'est l'ancien système des années 60 qui ont décidé de garder en place quand la RAMQ est arrivée. Ils n'ont pas fait le switch. Et qu'est-ce que ça fait comme de ne pas faire cette nouveauté-là? C'est qu'ils sont restés d'un sur papier. Toutes les informations de ta carte d'hôpital, by the way, c'est des informations confidentielles et sensibles de ton dossier. Fait que si tu la perds, ben, tu as 100% des informations de ta vie dessus pour cloner les identités, etc. Fait que, au côté sécurité, c'est pas bien, mais côté processus, c'est un désastre au niveau papier, là, ça c'est sûr.
Il demande encore des fax. Récemment, j'ai quelqu'un qui a fallu qu'il aille trouver un fax parce qu'il n'y en a plus nulle part. Fait que là, il fallait qu'elle se rende à la pharmacie pour faxer quelque chose parce que c'était la seule procédure qui était possible. Puis au-delà de ça, dans son dossier, ça faisait 2 ans qu'elle faisait un processus qui était quand même assez important. Là. Je veux dire, c'était pour pas une affaire de « t'as-tu 3-4 poils pas à bonne place ». C'est pas de ça du tout. Là. C'est beaucoup plus impressionnant au niveau santé puis inquiétant. Puis il y avait des antécédents dans la famille. Il n'y a rien qui est connecté. Pourtant, tout est noté selon le spécialiste qu'elle rencontre. Mais entre spécialistes, il n'y a rien qui donne, mettons, peut-être une économie de temps et d'explication dans un dossier où tout est répertorié. Si elle ne dit pas les antécédents de sa famille, ou elle en oublie, ou elle pense que c'est anodin puis elle n'a pas à le nommer, puis finalement, c'est quand même une pierre angulaire dans son dossier, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se sait. Puis finalement, tu continues d'avoir des processus ou encore de faire appeler 5 ans plus tard quand il est trop tard.
C'est un désastre. T'sais, j'ai été faire un test il n'y a pas très longtemps. L'été passé, je me suis fait appeler il y a 2-3 semaines pour le même test. J'ai dit, vous n'avez jamais fait votre test, vous devez venir le faire. Ben là, c'est parce qu'il est fait. Ah, vous l'avez fait dans un autre hôpital, fait qu'on le sait pas.
Ça n'a pas de sens.
Vous le savez pas. Puis là, j'ai dit, pouvez-vous transférer mon dossier? Il dit, non, c'est toi, il faut qu'il appelle, puis tu leur envoies un courriel.
Ouais.
Là,
tu sais,
j'appelle où, là?
Ouais. Mais tu savais pas, en plus, que c'était fait.
On sort un peu de sa clique, là, mais je veux dire, moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui fait de l'anxiété généralisée. Si elle n'a pas les bons médicaments, cette personne-là, elle peut pas aller travailler. Mais elle veut travailler, tu comprends? Fait qu'il fallait qu'elle rejoigne son médecin de famille, puis elle n'était pas capable de le rejoindre. Donc, elle est allée à la pharmacie Jean Coutu, Elle a demandé à la pharmacienne si elle pouvait utiliser le fax et ils ont envoyé un fax écrit à la main au médecin de famille et le médecin de famille a fait le retour. On est en 2025,
le patient. Imagine le temps perdu aussi pour ces spécialistes-là. Puis après ça, on nous dit qu'on n'est pas capable de mettre plus de chirurgie ou de consultation ou autre. J'aimerais ça, moi, qu'on ait une banque de temps à côté de notre tête numérique, là, puis mettons qu'à côté de leur tête à eux soit écrit combien de temps perdu avec des fax.
Je pensais
ça s'applique pas juste à la santé. Hein. Récemment, j'ai des collègues qui ont fait affaire avec le passeport au fédéral.
Ouais.
Pour avoir des passeports là, avec certaines procédures, il a fallu qu'ils faxent une centaine de papiers.
Non, t'as pas idée, là. Notre collègue Maxime, là, Larouche, là, ils ont perdu son dossier 74 fois. Ils ont dit pas les bonnes informations à chaque fois. C'est comme, présente-toi à personne, finalement, présente-toi plus. Puis là, après ça, on se dit, il nous manque de fonctionnaires, puis on en ajoute. Mais finalement, on en ajoute-tu pour pallier à la médiocrité puis la perte de temps inutile?
On ajoute des gestionnaires, pas des fonctionnaires. On ajoute du monde qui gère, pour en rien faire. Ça donne rien. Tu sais, les coupures en santé aujourd'hui, c'est le même concept. On coupe en bas au lieu de couper en haut. Il n'y a rien qui fait du sens dans tout ce qui est fait. Ouais. C'est malheureux. Puis ça touche. L'informatique, c'est juste qu'elle est répandue dans notre société au complet. Fait que là, on se retrouve avec des personnes qui n'ont jamais d'expérience de faire des transitions numériques d'envergure, qui gèrent ça. Ah, puis si vous voulez rire, là, allez sur YouTube. Il y a la vidéo de la SAAC qui explique que c'est un grand succès, leur transition.
Oh non.
Avec la personne qui a géré le projet de la VPT que j'expliquais. Ça dure une heure et c'est une heure de temps l'explication de ne quoi pas faire pour un projet de transition numérique, évidemment.
Mais il y a un visage là-dessus. Hey, c'est gênant. J'espère que cette personne-là a eu un boni.
Ça te fait un dossier de formation, Patrick Mathieu. Quoi ne pas faire? Voici exactement cette affaire-là.
Exactement quoi ne pas faire. Ouais. Mais c'est un exemple parmi des centaines, c'est surtout ça.
J'ai le montant initial là, du budget de SACLIC là, pour le créer. Puis aujourd'hui, on me dit que ça va bien, SACLIC. Là. Moi, je l'utilise quelques fois, mais pas assez souvent. Puis, mais pour ceux qui l'utilisent, ils disent que ça va bien. C'était 458 millions, le budget initial. Et on serait rendu aux dernières nouvelles à 612 millions et c'est pas fini encore.
Ce qui est dommage avec ce montant-là, c'est que potentiellement, c'est les vrais et bons chiffres que ça aurait dû être au point de départ. Mais le point de départ n'était pas en 2017, il aurait dû être en 2007 ou en 2000. C'est des systèmes, comme tu expliquais au début, qui datent d'une autre génération. Tu sais, c'est des systèmes de 40-60 ans qui n'ont jamais été maintenus à jour. Puis, du jour au lendemain, disons, on va faire une migration. Fait que c'est sûr que le projet est compliqué. C'est sûr que c'est long. C'est sûr que ça coûte cher. Mais si il maintenait, puis il avait fait une transition lentement, mais sûrement depuis 20 ans. Oui, ça aurait peut-être coûté 400 millions sur 20 ans, pas en 2 ans, et ça aurait fonctionné.
Patrick.
Mais il aurait pu l'apprendre sur le tas au lieu d'avoir... qu'il aurait dû avoir des experts pour savoir qu'est-ce qu'ils font.
Y a-t-il matière à poursuite pour des gens qui sont encore dans des déboires, mettons, de mauvais ficelage de dossiers quelconques à la SAAQ CLIC? Je sais que tu n'es pas avocat, mais est-ce que tu penses qu'il y a matière à poursuite?
Je ne sais pas comment ça marche avec ces choses-là au gouvernement, parce que ça reste qu'au final, c'est l'argent de tout le monde. Ça marche pas. Il y a peut-être quelque chose à faire. C'est ça une bonne idée d'avoir des avocats, tu sais, qui sont dédiés avec les recours collectifs. Je sais pas si on peut faire un truc similaire contre un gouvernement. Mais au final, il y a quelque chose à faire, peu importe c'est quoi, mais il faut qu'il y ait un changement. Les gestionnaires qui savent pas comment gérer.
Marceau le midi. Un show concis.
You know, and for sure, I think.
Un show qui va droit au but.
I don't have a time limit.
Un show qui se perd pas.
Very good. I think he brings a lot.
Marceau le midi.
13h09, on est avec Pat Raymond du podcast Financièrement parlant, qui est un ex-gestionnaire de patrimoine, qui est un ex-militaire. Puis tantôt, je fais rentrer un peu dans le studio pendant qu'on était en pause. On est en train de parler des diverses générations, à quel point il y a des choses qui ont changé. Puis tu sais quoi, on va parler de finances dans les prochaines minutes. Pat, salut en passant.
Allô.
Merci d'être là. Mais je serais curieux d'entendre les auditeurs à cet effet. En lien avec les générations, les choses qu'on a vues de nos grands-parents que nos petits-enfants à nous ne verront jamais.
Ah, c'est bon, ça.
Puis moi, je t'ai dit quelque chose d'hyper simple. Je ne me souviens pas de mon grand-père en T-shirt puis en culotte de jogging. C'est jamais arrivé.
Mes deux jamais vu dormir sur le divan non plus?
Jamais. Je l'ai vu dormir sur sa chaise berçante.
Oui, s'endormir contre son gré.
Mais il avait jamais de T-shirt. Il était tout le temps en chemise. C'est un policier, mon grand-père. Puis il était tout le temps en chemise propre, avec un pantalon propre, des souliers propres dans la maison. Puis il avait son petit cendrier qui était en vitre à l'époque. Tu avais-tu des gros cendriers
sur
épais?
Pied?
Oui, puis il y avait un petit foulard qui était un petit mouchoir pardon qui était dans sa poche.
Oui. Écoute, lui était moins propre par exemple.
Il était endimanché comme pas possible mon grand-père, mais je l'ai jamais vu foirer sur le divan. Puis l'autre jour, je pensais à ça, Pat. Ouais. Mes petits-enfants vont probablement me voir effoirer sur le divan parce que ça m'arrive de m'effoirer sur le divan une fois de temps en temps.
Toi, ça doit pas être glorieux là.
Mais je n'ai jamais vu mes grands-parents effoirer sur le divan. J'ai jamais vu un bébé goéland alors que c'est supposé d'exister. Là. J'en ai jamais vu non plus.
C'est stupide, mais moi, je ne l'ai jamais vu manger ma grand-mère ou mon grand-père dans l'auto. T'sais, pour nous, c'est commun, là, un café, des collations, quelque chose.
Ouais. Exact.
Mais c'est dans les détails. Mais ça, j'ai jamais, jamais, jamais vu ça. C'était tout le temps nickel dans l'auto. C'était comme si c'était pas un endroit adapté à manger ou à boire.
Il était tout le temps sapé comme un prince. Il était tout le temps peigné sur le côté. C'est sûr que moi, mes petits-enfants vont me voir dépeigner une
fois. Si on arrivait là, à l'improviste, ils se dépêchaient à aller faire quelque chose, enlever les rouleaux si jamais. Ou...
Il y avait une fierté semble être partie.
Mais toi, tu peux pas critiquer ça, là.
De quoi?
Je te regarde chaque jour.
Toujours sapé comme un prince?
Tu peux pas être la personne qui va critiquer le fait que l'éthique et la fierté.
Ma réflexion partait de là, parce que moi, le dimanche, quand il n'y a personne dans la maison, je m'effoire sur le divan. Puis si mes gars arrivent, ça se peut que je sois encore effoiré sur le divan, mais j'ai jamais vu mes grands-parents.
Il faisait ça en cachette, tu penses? Je pense même pas.
Il était hypocrite?
Non, je suis même pas sûr qu'il faisait en cachette.
Il y avait comme un autre mode de vie.
Il n'y avait pas de distraction comme on a aujourd'hui, je crois. Il y avait beaucoup plus de fierté. Mais oui, il y avait beaucoup d'apparence. Il y avait peut-être moins de transparence. Il y avait quand même beaucoup de choses qu'on ne voulait pas montrer aux autres. Donc, c'était constamment, je pense, cette génération-là.
Ça n'a pas si changé,
finalement. Même mes parents, tu sais, parlent pas de ça. Il ne faut pas que les voisins...
Surtout.
T'sais. Puis moi, je n'ai pas été élevé à dire mon salaire ou à parler de mes avoirs. Mais aujourd'hui, les plus jeunes, la génération Z, Millennium, parlent de leur salaire, parlent de... Tu sais, j'ai un groupe sur Facebook, questions financières, puis il y en a qui parlent ouvertement de... Tu sais, je gagne tant, est-ce que je devrais prendre tant de REER? Ouais.
Avec plein d'inconnus.
Ils ne sont pas anonymes, là. Tu vois leur nom,
Mais il y a des professions maintenant que c'est clair. Tu sais, policier, exemple, tu sais comment ils gagnent en majorité.
Oui, c'est vrai.
Les pompiers, c'est la même chose. Oui. Il y a des professions que c'est très, très clair. On sait exactement leur salaire. Les enseignants, c'est
exact.
Ça aussi. Mais écoute, c'est vrai. Dans le temps, nos grands-parents ne parlaient pas d'argent entre eux.
C'était des tabous. Je sais pas.
On a-t-il évolué ou on a empiré?
Ben, c'est ça, je me demande.
Mais le côté, parce que j'entendais pas te parler, puis j'ai repensé, mais côté cacher des choses, avoir l'air de... Tu sais, la superficialité, elle est quand même encore extrêmement présente avec les réseaux sociaux et tout. On dirait que tout le monde est, je sais pas, moi, un style de vie qui n'est pas le leur, finalement.
T'as raison de le dire. Ça a pris une autre forme. Il y a toujours... Je parlais de ça ce matin sur mon podcast. L'effet dopamine, l'effet quand tu es devant des gens, quand tu es en performance ou quand tu es en mode, je sais pas, tu es observé, ou quand, comme ici, par exemple, là, ben ça amène une dopamine, ça amène quelque chose où on veut montrer le meilleur de nous-mêmes.
Mais ça, c'est pas mauvais.
Et ça, je pense que c'est normal.
Ça fait partie de notre travail.
C'est même respectueux quand tu sors de chez vous pour les autres.
As-tu déjà vu ton grand-père cuisiner?
Oui.
Moi, j'ai jamais vu.
Meilleur soupe aux légumes.
Moi, j'ai jamais vu ça.
J'ai jamais vu mon grand-père cuisiner.
Non.
Mais c'était pas mal.
Toi puis moi, on est de la même génération.
Ouais.
Puis il faisait la même chose, là. Il faisait le bouillon, la soupe aux légumes. T'sais, je savais que ça, c'était lui qui l'avait fait. Il y avait ses trois recettes.
Mais j'ai jamais vu mon grand-père cuisiner. Non? J'ai jamais vu mon grand-père faire le ménage.
Aider, non. Mettons, avec une petite affaire non plus. Non. Mettons, le pain sort du four, il le coupe un peu.
Il était assis sur sa chaise berçante. Il revenait de travailler.
Ah ouais.
Puis le repas était sur la table.
Et ta grand-mère travaillait fort dans la
tout
maison?
Le temps, du matin jusqu'au soir.
Debout au comptoir.
Ouais.
Ça, c'est notre affaire. L'entretien de la maison.
Oui.
Extérieur, beaucoup plus l'homme. Intérieur, beaucoup plus la femme dans les générations. Mais nickel. Nickel, nickel. Beau, propre, ça sent bon. Les poussettages, tout est fait régulièrement. Il n'y a rien de croche.
L'arrière-grand-mère de mes gars avait, elle approchait 90 ans, puis elle avait encore son plancher à quatre pattes à guenilles.
C'est ça.
Y a-t-il encore du monde qui font ça, laver le plancher à quatre pattes?
Cirer, là, avec les genres de pantoufles à cirage.
T'as-tu déjà lavé ton plancher à quatre pattes chez vous, Pascal?
Les cracks, là, les joints.
Les joints de céramique.
Ça, je l'ai déjà fait.
J'ai jamais fait ça.
Avec une brosse à dents.
Moi, c'est la mop, là. Mais nettoyer à quatre pattes comme il faisait, j'ai jamais fait ça.
Mais on met moins de temps, je pense, sur le ménage que les autres générations. À preuve, des fois, quand les beaux-parents... Moi, mes parents sont plus là, sont décédés, mais évidemment, grands-parents aussi. Mais mes beaux-parents, ou s'ils viennent à la maison, je ne sais pas, des fois, l'exigence du ménage...
On travaille plus aussi. Les deux sexes travaillent.
On sait qu'un bébé boomer va plus observer le ramassage, le ménage. Est-ce que c'est propre? Y a-tu de la crasse? Y a-tu quelque chose? Ouais. Les coins dans la salle de bain ou tout ça?
Quand j'ai déménagé puis j'avais des boîtes partout, là, t'sais, j'étais parti en voyage puis tout ça, fait que j'ai eu des boîtes là, pendant... quelques mois à maison, OK? Je me suis jamais fait dévisager de même par ma mère. C'était comme une épouvante, là. Voyons que tu vis là-dedans. T'as-tu invité du monde chez vous?
Elle comprenait pas.
Stress, quatre boîtes.
Elle comprenait pas comment tu pouvais vivre avec ça. Mais quand tu dis on travaille plus maintenant en 2025, je suis pas sûr de ça. Parce que moi, je me souviens que les gars travaillaient 6-7 jours par semaine. Ceux qui étaient un peu plus croyants, le dimanche, ils travaillaient pas.
Mais la femme, elle...
Ils travaillaient du matin jusqu'au soir. Puis l'arrière-grand-mère de mes gars, elle a eu 13 enfants, 12 qui sont encore en vie aujourd'hui, puis ils mangeaient pas toute la même affaire. Puis être 13 enfants...
Mais je considère que c'est du travail, Yannick, je suis d'accord,
elle
mais...
Elle se levait à 4h30 du matin faire les déjeuners, puis elle se couchait à 1h le soir.
C'est du travail, mais à la maison. Fait que si, mettons, tu considères qu'on fait moins le ménage maintenant, c'est parce que dans la journée aussi, on n'est pas là à faire ça. Ouais. Je suis d'accord avec toi que c'est pire ce qu'elle faisait.
On est très distrait par toutes sortes de choses.
Ouais. J'aime mieux ma vie aujourd'hui. On a l'impression qu'on travaille beaucoup, mais comparativement aux gars dans le temps qui travaillaient du séjour sur
scène. Coûte des bas, là, parce qu'il y a un trou dedans aussi. Ils faisaient tout.
Exact.
Réparait, ouais, c'est ça, on réparait toutes nos affaires.
Fait qu'aujourd'hui, on parle des générations, mon ami.
Et ce qui est le fun à savoir, tant qu'à parler de générations, au passage, c'est que nous sommes plus riches aujourd'hui que dans les années 70 et 80.
T'as-tu l'impression...
La situation globale des gens de la classe moyenne s'est améliorée.
Ouais. Parce qu'on dépense plus.
Mais on s'est endetté beaucoup.
On s'est endetté, c'est ça.
Et c'est un peu le point que je veux soulever ici, j'allais dire ce matin, ce midi. Acheter une maison, c'est aussi la possibilité de s'endetter beaucoup et d'améliorer à court terme, des fois, le style de vie par une prise de valeur. Mais on s'en va où avec ça? Parce que, dans le fond, si ta maison prend de la valeur... mais que tu prends cet argent-là de la marge de crédit hypothécaire pour t'acheter une piscine, tu t'es pas enrichi.
Ben non.
Ton patrimoine, ta valeur nette, a pas grossi. T'as amélioré. T'as peut-être du confort qui s'est ajouté.
Oui,
t'as réussi à consolider tes dettes avec ta maison qui a pris de la valeur. Fait qu'une maison, tu peux t'accoter dessus, c'est un bon accoudoir, ça se dépanne, ça te sauve le cul. Mais est-ce que tu t'enrichis avec une maison? D'abord, les gens la gardent en moyenne 6 à 7 ans. De 1. De 2, les couples, la moitié des couples se séparent. T'as près de la moitié des 5 ans fixes qui sont cassés avec pénalité de par la situation des séparations de couples. Okay. Et personnellement, quand j'ai acheté ma première maison dans les années, ça va me vieillir un peu, fin des années 80, début 90, en pleine crise à ce moment-là, en pleine inflation et tout, crise économique, ça a pris je ne sais pas combien d'années avant que mon petit Christ condo prenne un peu de valeur à Val-Bélair, entre autres, sur le golf. Non, mais sérieusement, ça a été long. Et la maison que j'habite présentement, qui ça fait une quinzaine d'années, mais quand ça faisait 8 ans que je restais dedans, je la vendais à peu près le même prix que j'avais payé. J'avais ajouté thermopompe, fenêtre et porte. Donc, il n'a pas fallu se séparer. Ce que je veux dire, c'est que là, des fois, il y a une illusion en ce moment... les maisons prennent tout le temps de la valeur. Oui, c'est sûr que là, il y a une demande, puis il y a moins d'offres. C'est normal. Mais dans l'histoire, une maison, c'est combien, Yannick et Pascal, en rendement qu'on peut évaluer d'une maison? C'est 3 à 4 % sur le moyen long terme.
Ce qui est un peu moins que ce que tu peux faire quand tu places ton argent.
Bien, absolument. C'est ça mon point. Donc, il faut s'enlever l'illusion parce qu'il y a des gens qui sont frustrés parce qu'ils ne sont pas capables de passer au financement, d'acheter leur maison. Mm-hmm. Mais si tu achètes une maison à 5 % de comptant, on va te dire, en affaire, ça commence raide. Parce que ton hypothèque, moi, j'ai toujours une petite règle du pouce, là, d'un prix moyen d'une hypothèque, tu ajoutes à peu près 1 000 $. Parce que ça te prend ton 1 % pour ton entretien, tes taxes, et, etc. Assurance, et, bon, ouais. Bref.
Mais j'ai toujours fait de l'argent avec, avec mes maisons. Là. J'ai toujours été chanceux. J'ai toujours fait des choix. Quand je dis chance, là, j'ai fait des choix judicieux, mais des fois, je n'étais pas au courant de tout ce que j'achetais. J'ai été chanceux. J'ai un de mes chums, il vient de vendre sa maison la semaine passée, puis avec la commission du courtier, il a payé la, la maison le même prix qu'il l'a vendue.
Ouch.
Fait que l'argent qu'il a donné, ça a servi absolument à rien, 4 ans.
C'est arrivé kiff-kiff.
C'est arrivé kiff-kiff.
Puis c'est serré à la ceinture.
Mais pendant 4 ans, il a payé quoi? Il a payé 3-4 000 de taxes municipales par année.
Ouais.
Il a payé au moins quelques milliers de dollars en intérêt à l'institution financière par année. Il a probablement fait quelques améliorations et tout. Et au final, il a peut-être mis 20 000 $ sur 4 ans en frais divers. Et là,
il vend sa maison.
Il a récupéré une partie.
Commission
mais...
du courtier, 5 %,
mettons. Oui, à peu près.
Fait que si ta maison vaut 400 000, le courtier se prend 20 000 là-dessus. Là.
Mais c'est un peu comme n'importe quel placement. Non, non, ça va vite. Mais c'est comme n'importe quel placement. Si tu gardes ta maison 20-25 ans, tu ne te plantes pas. Là, je le sais que dans les dernières années, c'est parce qu'on voit tout le temps les dernières années. C'est comme à la bourse. Ah, c'est bon, le S&P 500 fait 25 %. Oui, mais l'S&P 500 ne fait pas 25 % chaque année. Si sur 15, 20, 25 ans, c'est du 7, du 8, du 9, autour de... Mais là, il dit, hey, les maisons, as-tu vu ça? Ils ont doublé depuis 2019. Oui, mais dans les années 90 puis 2000, les maisons, là, on va dire une affaire, il y en avait beaucoup là, qui tournaient en rond parce que ça ne prenait pas de valeur. Mm-hmm. Tu sais, moi, j'ai un condo. Je peux parler de choses personnelles, je le sais, en connaissance. J'ai un condo, ça doit faire à peu près 16 ans que j'ai. À Sainte-Foy, dans le coin, c'est loué, c'est même locataire depuis 16 ans, on les salue. Mais tabarouette, ça fait à peu près juste 3 ans que ça prend de la valeur. Ça fait à peu près juste 3 ans que je peux dire, là, je peux faire de l'argent si je le revends.
Oui, mais ton condo, il est là, puis il se paye tout seul.
Les 7-8 premières années, je perdais. Et dernièrement, sur les 7-8, mettons, on parle de 16 ans, donc 7-8 premières années, je perdais. 7-8 dernières années, j'étais arrivé à un moment donné, kiff-kiff, je faisais pas d'argent. Par mois, cash flow positif, non. Et là, dernièrement, ça fait à peu près 2-3 ans, je suis cash flow positif.
Oui, mais la valeur de ton immeuble augmente. Là.
Ben oui, mais ça fait juste 5 ans que ça augmente.
Okay.
J'ai regardé dernièrement, je regarde souvent sur Centris, dans le même immeuble, un 4,5, et là, voilà, ça s'est vendu tel prix.
Ouais. Fait qu'à la question, les milléniaux et Gen Z peuvent-ils bâtir leur richesse en posséder une maison?
La réponse est oui.
Ça semble assez clair.
Ben oui, c'est ça qu'il faut... Ben, c'est parce que là, il y en a trop, ils veulent avoir leur maison... Puis il y a une
te dépasser, Yannick.
Ben, il y a une illusion. Et par contre, si quelqu'un... On a déjà parlé, Pascal, ici. Je ne sais pas si on est en onde ou pas, mais moi, je vais le dire, au pire, je le redis. C'est qu'on peut commencer avec un immeuble à revenus.
Oui.
Si un jeune est prêt, évidemment, à se donner un peu, puis de commencer avec un duplex, un triplex...
Deux logements, trois logements. T'sais.
Y a-t-il des candidats qui voudraient venir habiter chez moi?
Pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas?
88-971-101.
Ça prend 5 % de cash avec la SCHL. C'est sûr que tu payes l'assurance de la SCHL, fait que tu payes peut-être un peu plus parce que tu mets 5 %.
Tu vas déduire ce que tu n'habites pas. Tu vas pouvoir déduire une partie de cet immeuble-là. Ou pourquoi pas aller rester, je ne sais pas, moi, au minimum... dans une chambre, si ça se trouve, pendant 2, 3, 4 ans, même si tu gagnes 82 000 par année, achète pas de char, achète rien.
Puis dormir dans une chambre.
Puis va chercher ton 20 % potentiel. Puis après ça, quand tu commences pas serré. Puis pourquoi pas aller chercher un immeuble qui fait des revenus. Non, mais c'est ça.
Je comprends.
T'es-tu d'accord?
T'aimes-tu ça parler d'argent, Pascal?
Écoute, j'adore ça. Ouais. Écoute, moi, la voiture...
T'es-tu à l'argent?
Est-ce que je suis à la... Non, j'aime mon confort, par exemple.
Ça, mettons, quand t'as choisi où est-ce que t'allais te loger, là, t'as-tu magasiné des prix ou t'as magasiné des endroits?
Des prix.
OK.
Non, là-dessus, je suis... Honnêtement, en plus, ça m'appartient pas. Fait que je suis beaucoup plus conciliante, puis tout ça. Je pense que je le rends beau où j'habite. Okay. Puis j'ai pas de... pas besoin que ça soit neuf et autre. Je trouve qu'il y a de la chaleur, des fois, dans certains immeubles. La voiture, j'ai jamais une voiture neuve, moi. Jamais. J'aime pas ça. Je trouve que c'est ankylosant financièrement. Je veux pas avoir des paiements. J'ai été chanceuse, en partie. Mais j'ai assurément, pour beaucoup de personnes, dépensé beaucoup plus en loisirs, en voyages et en études. Tu sais, c'est là où j'ai investi.
Il y a de l'investissement là-dedans, Pascal.
Je comprends et je n'ai aucun regret.
Les
je
études,
regarde ça, je n'ai aucun regret. J'en ai un seul regret, c'est de ne pas avoir acheté. J'avais 18 ans, puis j'avais l'argent. Puis à ce moment-là, c'était beaucoup moins cher. J'aurais dû acheter, j'ai un duplex, là, je l'ai dans ma tête. Là. J'aurais dû le faire, mais je ne connaissais tellement rien. Mm-hmm. Puis une affaire que je vais déplorer, là, c'est quand tu t'en vas dans certains comptoirs de banque ou de caisse ou de... il y a malheureusement des gens qui ne sont pas assez formés. Quand il y a quelqu'un qui arrive et qui a cet âge-là, puis qui a le goût de prendre une décision financière intelligente, puis que tu sens, toi, en tant que petite jeune, que la personne qui te parle est vraiment pas en contrôle de son discours, mais moi, j'ai ramassé mes clics et mes claques, puis je suis partie. Puis je me suis dit, ben j'irai pas plus loin dans ma démarche. Ouais. Ça m'appartient, c'est mon erreur personnelle. Sauf que j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à saisir pourquoi est-ce que cette personne-là, elle a pas fait. Je vais t'amener avec un collègue ou autre, puis qu'on a placé une personne. En tout cas, je le déplore.
Ouais.
Ça, je le déplore. Il n'y a pas assez d'outils pour les jeunes, puis on les oriente pas assez vers des personnes qui vont mm-hmm. leur faire comprendre.
Exact. Juste une petite aparté, oui. Je viens de voir passer ça dans l'actualité, oui. Pascal. Donald oui. Brashear, quiconque a déjà côtoyé Donald Brashear considère que c'est un bon gars. Là. Moi, c'est un gars contre qui j'ai joué au deck hockey. Un gars super sympathique. Il y a des trucs qui sont sortis dans l'actualité dans les derniers jours. Puis là, on commençait à monter un dossier sur Donald Brashear, l'ex-joueur de hockey de la Ligue nationale de hockey. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il aurait étranglé et menacé de mort une femme selon les nouvelles dénonciations. C'est présenté au palais de justice menotté puisqu'il était hors Saint-Ville depuis déjà quelques jours. Il a recouvré sa liberté dans les dernières minutes. Donc, il est libéré sous condition. Quand même un gars qui a joué 1000 matchs dans la Ligue nationale de hockey, tu te dis, crif, avec 1000 matchs, il a quand même eu un bon salaire. Il semble qu'il aurait peut-être pu se replacer mieux que ça aujourd'hui. Puis il connaît encore des déboires. C'est d'une tristesse. Puis j'ai une petite pensée pour la victime dans le dossier, bien entendu, qui a été étranglée par un gars qui est gros comme un cheval. Ça a dû être la peur de sa vie. Heureusement, il ne l'a pas tué. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va en découler de tout ça. Quiconque a déjà côtoyé Donald sait qu'il y a un bon fond. Mais ce qu'il a fait là, s'il l'a réellement fait, c'est complètement inacceptable.
Oui. Je l'ai côtoyé il y a une dizaine d'années, pendant un bon bout de temps, pendant 2-3 ans de temps. On se connaît quand même bien. Et on dirait que ce gars-là, des fois, il y a un peu d'autodestruction. Je ne sais pas. Il trouve un moyen toujours de perdre ce qu'il a acquis.
53 ans, c'est pas vieux, là.
On va parler au conditionnel, mais dans les faits, toutes sortes d'histoires de violence l'entourent. Des choses se sont avérées, d'autres pas. C'est la victime là-dedans.
C'est des événements qui se seraient passés sur plus d'un mois, de ce que je comprends. Donc, on revient à nos investissements, cher ami. Parce qu'il y en a qui prennent des choix éclairés maintenant. Ils disent, moi, je vais habiter dans un logement... Puis je vais le prendre stratégique, mon logement. Donc, je vais être à côté de mon emploi et je n'aurai pas d'essence à payer. Voilà. Puis je peux peut-être avoir un petit véhicule, mais un petit véhicule bien ordinaire sans trop dépenser. Ça peut être un choix judicieux, ça, aujourd'hui.
Tu sais, Yann, il faut vivre pauvrement pour s'enrichir. Il faut vivre pauvrement pour s'enrichir.
Mais le pauvrement...
Non, mais je l'ai dit pour faire réagir.
Regarde mon linge.
Je l'ai dit pour faire réagir.
Tu dois être riche. Regarde mon linge.
Moi, j'écoute les conseils de Pat.
Yann, officiellement, est millionnaire, gang.
Regarde son hoodie. Il a tout un patrimoine,
Il est rendu délavé pour viable.
Non, mais c'est ça. C'est coûteux sur l'ego, je comprends. Mais oui, tu as raison de le dire. Prendre un logement, par exemple, qui est peut-être pas un condo locatif sur le Bourgneuf, là... Prends pas
avec
un logement de 2400$.
Inclus,
là. Si t'as 68 ans, puis ta vie est faite, puis t'es rendu là, c'est correct. Mais on parle de quelqu'un qui a 20 ans qui dit « Moi, je vais acheter une maison avec 20% éventuellement, ou un immeuble, ou un triplex, peu importe. Ben, » soit,
va chercher
le minimum. Tu sais, il reste chez tes parents. Je sais pas s'il y en a des parents qui sont contents que je dise ça. Mais reste chez tes parents le plus longtemps possible pour cumuler, pas pour sortir constamment puis avoir toute la lousse. Mais, Pascal, ce que tu as dit, là, les expériences, tu as parlé d'études, tu as parlé d'expériences, voyage, oui. Ça, go. Parce que ça augmente ta valeur. D'augmenter ta valeur. Plus tu es rare, sur le marché. Non, mais c'est ça. Là.
Je parle de mes affaires, de mes voyages.
Tu vas être
rentable,
ils t'écoutent pas. Hein?
Non.
Mais avoue que tu as augmenté ta valeur.
Ben, moi, je pense que, honnêtement, côté ouverture d'esprit, côté langue, côté. J'étais en couple pendant 10 ans. Laisse-moi dans une espèce de
Elle a essayé d'apprendre l'italien, ça va marcher. Elle
oui.
a rencontré un espagnol le matin, puis là, elle switch sur l'espagnol maintenant.
C'est un Colombien.
Oh, excusez, il parle pas espagnol?
Ranavière.
Ranavière.
Mais on n'en parlera pas, ça ne me dérange pas.
Non, mais d'augmenter sa valeur, de vivre des expériences, d'aller aux études, tu sais...
Tellement important.
Là, l'école de la vie, j'adore ça. C'est super, l'école de la vie. Mais à un moment donné, ça prend du contenu dans ton contenant. T'es peut-être bien beau, mais ça prend du contenu aussi dans ton contenant. Puis d'accéder à, je sais pas moi, des opportunités par la suite. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas te faire offrir des opportunités quand tu deviens quelqu'un d'intéressant et tu vas t'intéresser à d'autres, puis là, tu vas te faire offrir des affaires. Et tu peux embarquer dans un...
Le nivelage de classe. Ben oui. Je vais le dire, là, c'est je vais y aller très... De façon succincte, là. Si tu viens d'un milieu où t'as
succincte.
Pas... Une... Ouais, je sais, ça va être inaccessible un peu. C'est pas grave, laisse-moi vivre. Si tu viens d'un milieu où c'est plus difficile, mettons, monétairement, ou encore t'as été à l'école avec des gens qui ont pas poussé peut-être tes compétences au-dessus de ce que où tu pouvais aller, puis tout ça... T'as pas choisi ça. T'as pas choisi dans le foyer dans lequel t'es né.
Exact.
Puis tu peux pas en vouloir à tes parents. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Puis tu peux pas en vouloir à tout ce qui t'entourait. Par contre, d'aller chercher de l'expérience et ou des études et ou de l'ouverture et ou peu importe, ça va t'amener à faire des rencontres et ça va t'amener à niveler de classe. Puis là, je dis pas ça dans un contexte de bourgeoisie, là. J'ai vraiment pas envie qu'on embarque là-dedans, là. Restez avec moi, là. Restez dans l'expérience sociale, là, sociologique. Ces rencontres-là font en sorte que tu as plus de possibilités dans la vie. Fait que peu importe d'où tu viens, le travail que tu vas avoir fait, toi, personnellement, pour niveler d'une classe à l'autre et où aller patauger puis être capable d'avoir le même langage à un moment donné que ces gens-là qui, depuis la jeunesse, peut-être ont un petit peu plus de ressources financières ou un peu plus de ressources éducationnelles, tu vas aller le pallier, tu vas aller te rendre là. Puis ces rencontres-là vont t'amener plus haut. C'est des gens qui vont te faire voir plus grand. C'est des gens qui vont t'orienter. C'est des gens... Puis là, je dis pas qu'il y a des classes qui n'ont rien à amener, là. Tout ce qui est humain, tout ce qui est débrouillardiste. J'y vais avec une globalité, mais ça fait toute la différence.
Bien, c'est parce que c'est la liberté que t'as quand t'es... On parle à des plus jeunes en ce moment. On parle de génération Z, millénium. Mais la liberté que t'as quand t'es plus jeune, malgré que les milléniums sont rendus à 40 ans, là. Mais je prends l'exemple de la génération Z où... Tu peux, tu as toute la liberté de t'ouvrir sur le monde, d'apprendre. Tu n'es pas obligé d'aller dans du traditionnel, mais d'aller dans différentes formations, du coaching. Investis en toi, développe-toi avant de t'embourber dans les dettes. Parce qu'à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que tu vas vouloir tout crisser cela parce que ça va être trop lourd sur les épaules. Puis tu dis, je rêvais d'avoir ma grosse maison. C'est un piège. Faire attention. Puis d'acheter quelque chose de raisonnable, d'être capable de continuer à mettre de l'argent de côté, même si tu es propriétaire aussi, parce qu'il y a encore une retraite à se préparer. Parce que ta maison, c'est pas ta retraite, ouais. Ta maison.
Mais moi, Pat, j'ai réglé ça. Il n'y en aura pas de retraite. Je vais essayer de travailler le plus longtemps possible jusqu'à ma mort. Fait que comme ça, je vais m'assurer de rien manquer.
Ça te prend une bonne santé. Mais continue
exact.
Comme ça.
Il faut rester en santé. Mais oui, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, il faut se poser la question à savoir, bon, je veux une maison, mais à quel prix? Est-ce que je vais nécessairement m'enrichir? Le choix judicieux de ton emplacement, tu sais, ta maison, est-ce qu'elle va prendre de la valeur avec le temps
tellement.
Ou elle va rester, elle va stagner comme ça? Parce que
exact.
Pour la ville, eux autres, ils vont toujours augmenter le rôle là, après tant d'années. Je pense que c'est aux 4 ans.
Oui.
Ils vont toujours te dire que ta maison vaut plus cher, mais sur le marché, ça ne veut pas dire qu'elle va valoir plus cher. Tu sais.
En effet.
Et puis, comme tu le dis, l'entretien de la maison est hyper important. Puis, je prends l'exemple de mon chum, tu sais, qui a acheté une maison il y a 4 ans. 4 ans de paiement.
Ouais.
Là-dessus, il a peut-être mis un peu d'argent, là, la peinture et tout ça. Puis finalement, bien, avec la commission du courtier, c'est comme s'il avait payé dans le vide pendant des années et des années. Fait que le choix judicieux est primordial. On te suit comment, Patrimon,
ouais,
du podcast financièrement parlant?
Financièrement parlant podcast. On s'amuse avec ça. C'est tout du bénévolat pour le plaisir de vous partager ma passion. Puis en espérant que ça peut, au passage, instruire un ou deux sur certaines petites notions de finances personnelles. On en a besoin.
Merci, Pat. Merci. Red Hot Chili Peppers, c'est ce qu'on vous pousse dans les oreilles avec Black Summer sur Boulevard. 13h36, qu'est-ce que t'arrêtes, toi?
De me dire que je vais rester à travailler jusqu'à la fin de mes jours, ça me déstresse.
Ben oui.
Yannick Marceau en ce 18 février.
Quand on parle de retraite, là, je suis pas sûr, moi, que les gars de mon âge, les filles de mon âge, puis même de ta gang, je suis pas sûr que vous pouvez espérer une retraite Liberté 55.
Non, je pense pas.
Ou je suis pas sûr qu'on peut espérer que lorsqu'on aura 65 ans, il va rester de l'argent pour nous autres, même
mais
si non. On a fait mettre de côté par notre gouvernement.
Mais moi, j'ai l'impression qu'il va aussi falloir que je prenne soin de mes proches là-dedans.
T'sais, les taxes augmentent à Québec. Là. Moi, là, mes taxes ont augmenté là, de quasiment 1200-1300$ de mémoire.
Hey, les talons qu'on voit,
puis,
ça n'a pas de sens.
C'est pas si grave que ça, parce que ma maison, elle coûte pas si cher que ça.
Ouais.
Mais je pense à ceux qui, mettons, je sais pas moi, qui ont acheté leur maison dans le temps 80, mettons 150 000, puis là, leur maison vaut 300 000, c'est supposé être payé, mais il faut tout le temps que tu sortes de l'argent supplémentaire de tes poches pour les taxes municipales. Ça commence à être de l'argent qui sort beaucoup de ta maison.
Vois-tu, ça, c'est un des points que j'ai de la misère à comprendre. Mettons, opinion personnelle, pas dans le jugement de personne, la maison, moi, je la veux chaleureuse. J'ai de la misère avec des grosses maisons au final que tu t'occupes pas les pièces puis que ça valait rien officiellement dans ton quotidien.
Un manoir.
Mais tu sais, une petite maison bien rénovée au goût du jour avec une chaleur versus le manoir pour impressionner. Puis plus tu parles à des gens qui ont eu des grosses maisons, plus ces gens-là prennent les décisions de rapetisser. Pour le ménage, pour l'entretien, pour le fait que finalement, ils n'utilisaient pas du tout les pièces, à moins que tu aies 14 enfants. Là. Mais ça, quand tu sais ça tôt aussi, ce que tu aimes du côté de l'immobilier, ça te permet de prendre des meilleures décisions. Là. Mm. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir. Puis Pat, il nous dit souvent, le luxe, ça tue, le confort, ça tue, parce que tu t'y habitues, puis ça te coûte encore plus cher.
Oui. Mais... Il y en a qui se prennent des condos locatifs maintenant. Okay? Puis j'ai entendu des gens qui sont très près de leurs affaires qui disent que c'est peut-être la pire des décisions que vous voulez prendre. Mais si toi, tu veux acheter un condo locatif parce que tu as une salle d'entraînement à l'intérieur de l'établissement, mm-hmm. fait que tu disais un peu, là, moi, ça me libère d'un abonnement au gym.
Ouais.
L'essence que je vais prendre à tous les deux, trois jours pour aller au gym, je paye pas ça. La nourriture, c'est tout à chez nous. J'ai pris le condo locatif à côté de ma job, fait que j'ai pas besoin de véhicule. T'sais, ça peut être un choix éclairé aussi, ton fameux condo locatif.
Oui,
là.
Je l'avais calculé, moi, quand je suis partie. Là.
Ouais.
Puis par rapport au prix, là, c'était pas adéquat, admettons. J'économisais pas. Mais j'avais fait ce calcul-là.
Ben, t'as pas
parce
le choix.
Que des fois, il y a plein de commodités. Fait que tu dis, ben là, j'en profite, puis au final, ça va me coûter moins cher, même si c'est une location mensuelle. Tu sais, des fois, Internet et l'électricité sont compris dans ces locations-là versus un autre type d'appartement. Mais il faut faire les calculs.
Tout le temps.
Faut vraiment faire les calculs.
Tout le temps. T'sais, j'avais pris la décision d'aller établir ma maison en Beauce, ma famille.
Oui.
Je voulais que mes gars grandissent en Beauce. J'ai réussi, mais là,
c'était loin
de
ton travail.
Mais c'était Sainte-Marie, là. C'est Sainte-Marie de Beauce. C'est peut-être une vingtaine, mettons 20 minutes des ponts.
Tu roules
à 120 km/h.
Okay,
ce qui fait en sorte qu'avec mon truck, ça me coûtait quasiment 500$ de gaz par mois supplémentaire.
J'habitais à l'Ange Gardien, okay. Là, puis je travaillais à Sainte-Marie quand on s'est connus, là, ben, dans ce coin-là. Puis c'était aller-retour chaque jour. Ça me prenait ma paye au complet en essence.
Mais ce 500$-là, j'aurais pu l'utiliser ailleurs.
Ouais. Oui, oui.
Mais j'avais pris un choix éclairé, c'est-à-dire que quand j'étais rendu chez nous, j'étais en campagne. J'avais la quiétude, la paix d'esprit. Mes enfants étaient isolés du centre-ville de Québec. Je voulais éloigner mes enfants du centre-ville de Québec parce que moi, j'ai grandi là. Puis j'étais très heureux de le payer, le 500$ d'essence, mais c'est un 500$ que par mois que je ne reverrai plus jamais.
Et tu ne mettais pas ailleurs.
C'est ça. Hey, 13h40, on va s'en aller en musique. On va faire un petit tour de l'actualité, mais qu'on revienne, Pascal. Les nouvelles sont pas joyeuses pour Gilbert Rozon. Là. Mm. C'est épouvantable l'histoire qu'on peut lire actuellement dans les médias concernant le procès de Gilbert Rozon. Vous n'en reviendrez pas. Même la conjointe, l'ex-conjointe de Gilbert Rozon mentionne avoir été agressée sexuellement pendant des années et des années par lui.
Partout, là.
C'est complètement fou ce qui se passe. On s'en va en musique. Les Delaware Chuck Megastar sur Boulevard. D'ici là, si vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021. 88-971-1021. On revient.
Maintenant, un antonyme de dompté.
Mais merci.
Oui! We got a winner. Voici Marceau le Midi, indomptable depuis 1872, ou l'invention de la radio. Voici Marceau le Midi.
13h50, 18h ce soir, j'aurai le plaisir de jaser avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Il va faire partie de notre podcast. C'est un gars qui est très, très, très apprécié. Ça va être la méchante droite économique sur les ondes de boulevard.
Mais non, il est super rationnel. Là. Tu vas pouvoir le pousser aussi. Là.
On revient avec le chum Brachir qui semble l'avoir échappé dans les derniers mois.
Tu le connaissais bien, toi?
Je l'ai rencontré quelques fois. Je l'ai eu quelques fois en entrevue. J'ai joué au hockey avec, j'ai joué au déca-hockey avec un gars, un maudit bon gars. Mais avec ce qu'on vient d'apprendre dans l'actualité, comme quoi, depuis des semaines et des semaines, il aurait agressé une femme, il aurait même tenté de l'étrangler, la menacer de mort. Je pense plus que je dise que c'est un bon gars, honnêtement.
Oui, mais même Pat avait un peu cette vision-là, mais c'est là quand on en apprend un petit peu plus dans les nouvelles sur une personne. Pendant un mois, en fait, ces sévices-là auraient eu lieu pour l'homme bien connu. Il y en a un autre dans l'actualité. Yannick, plus d'informations qui sont sorties au courant des dernières minutes. C'est Gilbert Rozon qui refait la une avec son ex, Véronique Moreau. On rapporte qu'elle a été droguée et violée à répétition par Gilbert Rozon. Ça s'ajoute, en fait, à tous les déboires là, qu'on lui reproche à ce magnat-là de l'humour. Elle avait 17 ans quand elle a commencé à sortir avec lui à 34 ans. On dit qu'elle était éprise d'un grand amour, elle se sentait comme une princesse, une histoire qui aurait après été ponctuée de relations sexuelles non consenties, d'extasie glissée en douce dans ses verres, parce qu'elle était plus cool comme ça, lui disait, selon le texte et la cour, Gilbert Rozon.
On parle, si tout ça c'est vrai, on parle vraiment d'un maniaque sexuel. C'est un agresseur sexuel condamné dans les années 90, mais si tout ça c'est vrai... Ce sera au juge de décider, de dire combien Rozon devra donner aux victimes. Là. Mais c'est un maniaque sexuel.
On va l'entendre, il va éventuellement donner sa version des faits dans le cadre de ce procès civil-là, mais c'est une des premières fois qu'on a ces infos-là. Par contre, je ne sais pas s'il était retenu par les journalistes auparavant, mais ça a rappelé Pellico du côté de l'Europe. Là.
Ouais,
être drogué, violé, sa propre conjointe sur plusieurs années...
On se concentre sur d'autres choses, les amis, aujourd'hui, si on veut passer une belle journée. By the way, Denis Gravel s'en vient avec Véro et Audrey pour vous livrer l'essentiel de l'actualité. Puis on se retrouve ce soir 18h. Toi, demain à 11h30, tu seras là.
Je serai fidèle au poste.
Salut, bye bye.
Salut.
D'ici là, apprends l'espagnol.
Oui.
Pour voir ce que tu t'entraînes demain.
Je le connais, fait que j'ai peut-être plus de chance.
Demain, tu t'entraînes avec Javier. Javier.
Hey, tu vas pas commencer à. Pauvre Javier, là, qui est hyper sexualisé en onde. Là.
Il va te faire faire des redressements assis.
Ravière.
Allez, Pascal. Pascal. Fais des redressements.
Pascal, hein.
Ouais.
Pauvre Ravière. Non, ouais. Moi, je veux pas aller là.
Salut, à tantôt. Les Shirley. Ma vie à l'heure sur Boulevard.